Vous écoutez La Nuit Américaine.
Votre podcast sur le cinéma.
Bonjour les amis et bienvenue autour de la table de la Nuit Américaine. Vous avez eu la judicieuse idée en ce début de semaine de mettre votre casque pour vous isoler du bruit que font vos odieux collègues et d'appuyer sur play pour lancer le podcast de la Nuit Américaine et passer un moment de bonne humeur avec nous pour cet épisode consacré au film d'Adrian Lynn, sorti en 1990. Lynn, comme la maladie. Film sorti en 1990, L'échelle de Jacob, avec au casting, Tim Robbins, Elisabeth Peña et bien d'autres que j'ai oubliés. En deuxième partie d'émission, nous parlerons d'Opération Fortune, ruse de guerre, de Guy Ritchie, disponible en SVOD sur Prime Video et bien évidemment du chaleureux Evil Dead Rise, sorti en salle le 19 avril dernier. Et nous finirons ce délicieux moment passé ensemble par la rubrique des coups de cœur de toute l'équipe. Et ça, je vous promets, vous n'allez pas regretter d'avoir appuyé sur play. Pour donner du peps à cette émission, j'ai choisi la crème de la crème pour m'accompagner aujourd'hui. Julien, bonjour Julien.
Salut Mikey.
Mathieu, bonjour Mathieu.
Bonjour Mike.
Et Thomas, bonjour Thomas.
Bonjour Mike.
Comment allez-vous les garçons?
Ça va?
Très très bien mec.
Ça va?
Ouais.
Bon alors ce film, qu'est-ce qu'on va en dire?
Qu'est-ce qu'on en dit? Tu veux que je commence?
Oui c'est ça.
Ok, je fais juste une petite intro avant de passer la parole aux copains pour qu'ils te donnent leur avis. Ce film qui est donc réalisé par Adrian Lyne, on en parlera tout à l'heure de ce cinéaste, c'est une espèce de parenthèse dans sa filmographie. C'est un film assez particulier au sein de sa filmographie, mais même au sein du cinéma fantastique fin des années 80, début 90. Donc le film sort en 90, on parlera après de son scénariste qui est aussi hyper important, qui s'appelle Bruce Joel Rubin. Le film a fait un flop à sa sortie. On estime qu'il a à peu près coûté 25 millions. 25 millions, c'est quand même énorme. C'est Carolco qui produit ça à l'époque. Carolco, c'est société de production qui a sorti les Rambo, les Terminator. Donc on est vraiment dans un cinéma de genre. Et donc il décide de produire ce film qui était un scénario qui faisait partie de ce qu'on appelait les blacklists. C'est-à-dire les scénarios que tout le monde trouve extraordinaires, mais que personne ne veut produire parce qu'on ne sait pas comment produire cette chose-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le fameux scénariste, il a eu un deal. La même année, il a écrit deux scénars. Celui-ci et Ghost, qui ont été rachetés par la Paramount. Donc les deux vont sortir en 90. Ghost va être un énorme succès, connaissez tous le film avec Demi Moore et Patrick Swayze. Et par contre, L'échelle de Jacob sera un four. C'est aussi un choix très audacieux d'avoir pris Tim Robbins, qui n'est pas encore l'acteur connu qu'on connaît tous actuellement. Donc c'était un vrai pari que ce film-là, ça a été un flop. Il a été réhabilité avec les années grâce aux sorties dans les vidéoclubs, comme toujours. Et aujourd'hui, il est considéré comme un classique du cinéma fantastique. Je rappellerai juste que le cinéma fantastique, ce qu'on dit à chaque fois, enfin ce que j'essaie à chaque fois de rappeler, c'est pas forcément des monstres ou des vaisseaux spatiaux type. On n'est pas dans la science-fiction. Le vaisseau fantastique, c'est à partir du moment où il y a un élément autre, une espèce d'altérité qui vient en fait bousculer le quotidien. Ça, cette altérité que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas,
elle que
tu ne
comprends pas. Dans ce film, elle est psychologique.
Ah bah dans ce film-là, voilà, tu as tout à fait raison. On va dérouler, déployer en fait toutes les thématiques possibles autour du thriller psychologique et fantastique dans ce film-là. Donc, on va passer la parole aux copains. Qui veut commencer?
Alors, oui, qui veut nous faire le pitch d'abord?
Ah bah bon. Non, fais-le, Mike. Fais-le parce que c'est un exercice tellement casse-gueule sur ce film que j'attendais que tu fasses le pitch.
Non, mais le pitch. Bon, d'après ce que j'ai compris, alors c'est un vétéran de la guerre du Vietnam qui rentre au pays, à New York, voilà.
Tout à fait.
Et qui a perdu son jeune enfant
avant de partir au Vietnam
d'un accident de voiture. Non, je sais plus comment
c'est ça, un
accident de voiture. Et cette personne a du mal à retrouver sa place dans ce monde-là parce qu'il est.
Aujourd'hui, on parle là de.
Victime de stress post-traumatique et d'autres démons intérieurs, on va dire ça comme ça.
Je pense que c'est un pitch plutôt correct.
Ouais. C'est ça. C'est
tout à fait. Me donne une bonne note.
Bravo. Tu étais très bon.
Voilà. Julien, pardon, je t'ai coupé avant que tu prennes la
parole. Ouais, bah écoute, très belle découverte encore une fois, bah, comme souvent quand c'est conseillé par Mathieu. C'était vraiment. En fait, moi, je suis très content parce que je l'ai regardé sans du tout savoir de quoi il parlait. Je savais même, tu vois, le pitch que tu viens de faire, je l'avais pas lu, j'ai rien vu. J'adore finalement regarder des films sans du tout savoir ce que ça va être. Et j'ai vraiment, justement, il m'a baladé ce film. À travers plein de sentiments et de à chaque fois que je croyais avoir compris quelque chose, tu vois, il y avait un twist où il y avait quelque chose qui se passait, je me disais ah non, peut-être que, et même si des fois ça a l'air un peu obvious, tu vois, tu te dis ah c'est sûr, ça doit être un truc comme ça, mais il y a toujours un petit quelque chose qui te fait revenir sur ton idée, tu te dis ah peut-être pas, et finalement voilà. Donc du coup, c'était vraiment vraiment agréable. Enfin, agréable, c'est pas un film agréable en soi, mais c'est un bon film, et j'ai vraiment passé un bon moment à le regarder. Et encore une fois, il y a plein de couches d'interprétation, et travailler dessus, c'était très intéressant aussi.
Parce qu'effectivement, on peut prendre ce film juste à pied de la lettre comme un film fantastique, avec ce qui te présente d'éléments fantastiques, un peu horrifiques, et s'en tenir à ça, et c'est déjà un bon divertissement. Mais après, comme tu dis, il y a des lectures, tu vois, que tu peux faire de ce film-là, évidemment, biblique, théologique, et qui rend aussi l'œuvre assez passionnante. Donc, moi, je me souviens quand j'ai vu le film la première fois, alors je l'ai vu jeune, hein, j'avais 15 ans, 15, 16 ans. Moi, l'aspect, en fait, un peu métaphorique, biblique, quoi que ce soit, m'est passé complètement au-dessus. J'ai juste vu un film fantastique, un peu gore, un peu surprenant, où effectivement, qui te prend un peu la tête parce que tu saisis pas tout, mais qui était extrêmement divertissant. Tom ?
Bah écoute, moi pour le coup, j'ai vécu le film, ça a vraiment été une expérience, mais tu sais, c'est ce truc où tu te retrouves au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une soirée et en fait tu te dis merde, je me suis foiré. En fait, je vous explique, c'est que quand je me suis inscrit sur le film, sur Adrien, en fait, moi j'ai même pas hésité parce que c'était Adrien Lyne et que moi j'adore ce qu'il fait. comme tu disais, on en reparlera en deuxième partie d'Adrien Lyne, mais bon, c'est voilà, on connaît, c'est pour moi c'est le pape un peu du thriller érotique dans les années 80 et 90. Et moi, Adrien Lyne, c'est quand j'ai commencé à devenir cinéphile, mais quand j'ai vu mes premiers vrais bons films, on va dire pour les grands, à l'âge de 12-13 ans, parmi mes films cultes que j'aime encore regarder aujourd'hui, il y a deux films très importants pour moi d'Adrien Lyne, qui sont Lolita et Infidèle. Et du coup, j'étais hyper content de voir un film d'Adrien Lyne. Je savais qu'il était différent, que ça n'allait pas être un film érotique, mais en fait, un thriller érotique. Mais en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce qu'en fait, j'étais parti complètement sur autre chose, pour vous dire. Alors, en fait, je pensais que j'allais voir un film, je vais vous expliquer pourquoi, sur Auschwitz, ou un truc comme ça, sur la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, je me suis dit, ah bon, ça va pas être très très gay.
Parce que Jacob ou...
Parce qu'en fait, je vais t'expliquer.
Ah, le film de...
Parce qu'un film est années 90 qui s'appelle Jacob le menteur.
Exactement.
Et en fait, j'étais parti là-dessus. Et en fait, quand le film s'ouvre et que je vois des bidasses, hein, et que c'est la guerre du Vietnam, j'avais trop les nerfs. Parce que comme vous savez, je suis pas un film de,
film de guerre.
En moins d'un an, je me suis tapé Rambo Full Metal Jacket et je sais pas vrai, putain, mais je me retape un film de guerre sur encore le Vietnam. Donc sur le coup, j'étais là, putain. Ouais. Et même si, je sais pas, Rambo et Full Metal Jacket, c'était des bonnes surprises et j'avais bien aimé. Mais vous savez, c'est pas ma cam de base. Et on va dire que, heureusement, ça aborde le film de guerre sous un autre angle que les autres, puisque là, en effet, ça l'aborde sous le terme du thriller fantastique. Donc au moins, ça a permis d'égayer un peu plus mon intérêt.
Et puis un peu d'érotisme aussi quand même.
Ouais, un peu.
On
va dire que tu retrouves les effets d'Adrien Lyne sur le côté un peu sulfureux, mais il se réfrène dans le côté racoleur, on va dire. Voilà, je trouve. Et du coup, voilà, du coup, ça. Bon, je vais être honnête, je ne suis pas grand fan du film, ça reste pas quand même ma cam. Mais. Il y avait plein d'endroits où j'étais complètement largué, hein, je veux le dire. Je pense que c'est un film qu'il faut revoir deux fois, trois fois pour tout reprendre, revoir les codes et tout ça. Peut-être que je l'apprécierais sur un autre visionnage. Mais ça n'empêche que je peux comprendre que le film ait été réhabilité et soit aujourd'hui vu comme un objet un peu culte, parce qu'il y a quand même plein de choses hyper intéressantes.
Mike, dis-nous toi.
Moi, je l'ai vu il y a. Je t'ai dit quand je l'ai vu ça. C'était.
Oui, il y a quelques jours. Là,
il y a quelques jours, on était au cinéma ensemble. Ouais, il y a pas très longtemps. Je me suis un peu ennuyé. Voilà, parce que c'est pas ma cam, mais voilà, j'ai. Je l'ai regardé parce qu'il fallait le regarder, mais ça ne m'a pas inspiré. Je l'ai trouvé un peu longué. Et puis ouais, j'ai pas trouvé d'intérêt à ce film-là. Voilà, je ne peux pas te donner d'argument. Mais,
c'est pas grave. Du coup, je vais quand même poursuivre. comme je disais tout à l'heure, il y a deux choses qui sont assez importantes dans la mise en place, dans la réalisation de ce film-là. C'est un type qui s'appelle Bruce Joel Rubin, qui est le scénariste. Ce type, en fait, a fréquenté tout le milieu un peu intellectuel de New York dans les années 60-70. Enfin, c'est là où il commence à travailler avec Brian De Palma, il rencontre Scorsese, tous ces grands artistes-là. Et pour la petite histoire, donc, bon, lui, il est vachement investi depuis quelques années dans tout ce qui est, un petit peu, voilà, chamanisme, ce genre de choses, bouddhisme et compagnie.
Il a été au Tibet et tout.
Il a été au Tibet. Et dans les années 60, en fait, son colocataire était à collaborer et à travailler. En fait, il était une espèce de disciple de Timothy Leary. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Timothy Leary, c'était un grand psychanalyste aux États-Unis, un grand théiciste dans les années 60. C'est lui qui a promu les vertus du LSD. Comme quoi, le LSD pouvait t'aider à une espèce d'élévation spirituelle. Et tout ça faisant. Ça a créé aussi, tu vois, ce scénario-là. C'est toutes ces influences en fait très psychédéliques qui font ça. C'est aussi donc ces influences-là. Évidemment, le traitement de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est une espèce de, enfin c'est une antienne qui revient souvent, comme quoi les soldats étaient dopés pour aller au combat. Bon, c'est un truc, on en parlait déjà dans la Seconde Guerre mondiale. Hein,
oui, LSD, dans toutes les guerres finalement.
Ah ça, le LSD a été inventé en 43 par des Suisses, et on sait que les nazis ont aussi utilisé soit de la cocaïne, soit du LSD pour booster les soldats. Et aux États-Unis, enfin on suppose que lors de la guerre du Vietnam, c'était le cas également. Il y a ça qui est intéressant, il y a ce fameux scénario que je disais tout à l'heure qui a été écrit quasiment conjointement avec celui de Ghost, qui finalement, ce scénario c'est une espèce de... Parce qu'il reprend, je ne sais pas si vous avez vu tous le film Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze, il y a plein d'éléments aussi qui reviennent là-dessus. Il y a un même traitement au niveau... Il y a des scènes comme la scène du métro, il y a plein de choses en fait qui sont une espèce d'effet miroir, mais bien sûr beaucoup plus dark dans l'échelle de Jacob. Et donc il y a cette particularité d'Adrian Lyne. Tom nous parlait effectivement de sa carrière de cinéaste qui est très disposé à faire des thrillers érotiques et puis très sulfureux. Il était surtout très connu aussi au début de sa carrière avec un film comme Flashdance. Le mec vient de la pub, et c'est pas pour rien qu'Adrian Lyne vient de la pub. C'est toute cette génération comme les Ridley Scott qui ont travaillé dans la pub, et cet effet en fait très clipesque du cinéma des années 80, des néons bleus, ce genre de choses. Il va faire 9 semaines et demie avec Kim Basinger, Mickey Rourke. On retrouve toute cette patine très années 80, qui a généré tous les clips MTV. Et moi, je suis pas fan forcément de ces films-là, mais je peux pas dire que ce soit des mauvais films. Derrière, il y a aussi les deux moguls qui étaient, qui est toujours vivant, qui est Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Don Simpson, c'est lui qui permet aussi la création de cet univers années 80, de cet esprit et de cette patine qu'on peut retrouver dans Flashdance. Moi, je conseille toujours à tout le monde, si vous avez une fois l'occasion, de lire la biographie qui est aux éditions Sonatine sur Don Simpson, vous allez halluciner. C'est le mec est mort, je crois, en 95-96, c'est la caricature du producteur, cocaïnomane, érotomane. Ouais, je sais pas si quelqu'un a déjà vu True Romance. Oui. De Tony Scott, le producteur qu'on voit dans le film, c'est lui. C'est clairement lui. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'intrication dans ce film-là d'un cinéaste comme Adrian Lyne qui effectivement semble être aux antipodes de ce type de projet, et l'association d'un scénariste qui a des influences, comme on disait, religieuses, bibliques, l'échelle de Jacob, déjà rien que dans le titre. Il y a plein de choses qui font que c'est quand même hyper intéressant à analyser et à étudier. Je sais pas si vous avez
effectivement, comme tu dis, le scénariste, on le sent dans l'histoire qu'il y a de la mystique, il y a beaucoup de choses derrière. Tu vois, après, ils évoquent certaines choses. Après, ça a été simplifié. Ça a été pour le film, le réal, c'est à calmer quand même un petit peu certaines choses du scénario, sinon ça devenait vraiment vraiment très perché finalement. Et comme dit, il y a vraiment différents niveaux de lecture. C'est-à-dire que moi, pareil, je regarde le film. Alors, pareil, il me plaît, comme tu l'as dit, c'est un bon divertissement. Les acteurs sont vraiment très bons. Il y a plein de choses que tu comprends. Et il y a d'autres choses qui sont, comme dit, évoquées. bon, tu saisis pas forcément ou tu comprends ce qu'il veut dire, mais tu n'en comprends pas la signification profonde. Et quand tu travailles justement, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tu vas parler de Maître Eckhart et des trucs comme ça. Et quand tu commences à écouter des gens qui analysent vraiment tout ça, tu te dis, ah oui, quand même, il y a vraiment une grande profondeur, comme dit... mystique là-dessus, alors que ce soit qu'il y ait des influences, ouais, comme dit bouddhiste, le fameux bouquin là, je sais plus comment il s'appelle, pardon, je l'avais noté, mais
oui, ouais.
Bouge pas, je vais te sortir ça. Et c'est le livre des morts des bouddhistes, le Bardo Toldo, ouais, c'est ça.
Ouais.
Et donc en fait pareil, l'échelle du coup, l'échelle de Jacob, la Divine Comédie, et ainsi de suite, tous ces textes. D'ailleurs, ça m'a fait penser, marrant, parce qu'à un moment donné ils évoquent tous ces trucs, ce sont les films, les livres qu'étudient Somerset et Mills dans Seven, en fait, justement tout ce rapport.
On voit effectivement quand il étudie la comédie de Dante, il reprend en fait toutes ces images qu'on retrouve, enfin qui ont été les illustrations de. Mince, son nom m'échappe. Il faut m'aider, en plus c'est un Alsacien.
C'est un Français, ouais. Ouais.
Pareil,
je sais plus son nom.
Ungerer. Ah, ok, merci. Oh la honte, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Effectivement, il voit toutes ces reproductions. J'ai un énorme trou de mémoire, mais c'est pas grave. En tout cas, il étudie la Divine Comédie de Dante parce que finalement, le film, on peut le voir aussi comme ça. Le début du film, c'est l'enfer. Il se retrouve dans le conflit parce que lui, en fait, il est pendant tout le temps où on voit le film avec ses différents flashbacks. C'est pas encore ni le paradis ni l'enfer. C'est le stade intermédiaire.
Le purgatoire.
Et ça, c'est tout le film. Et à la fin. En fait, sans tout dévoiler, il y a une espèce, tu vois, d'élévation, on peut supposer qu'il va aller au paradis. Mais ça, finalement, même si tu ne le saisis pas, à mon sens, ce n'est pas grave, parce que ça conserve quand même il y a quand même un attrait assez divertissant, tu vois, dans le film. Mais effectivement, si tu fais toutes ces lectures-là... Pardon ? Non, c'est pas Bosch, mais je le crois pas, j'ai un trou de mémoire. Mike, est-ce que tu peux enchaîner et nous parler aussi du film, le temps que je retrouve mes petits...
Juste pour revenir à ce que tu... désolé, Mike.
Non, mais de toute façon, vas-y.
En fait, le truc,
c'est plus intéressant ce que tu as à dire, toi.
C'est pas ça, c'est que je finissais.
Non, c'est vrai, en plus.
Propos, en voulant le terminer, c'est qu'une fois que tu as cette notion-là, justement, donc d'échelle de Jacob, toute cette histoire, c'est-à-dire de purgatoire et de passage des enfers vers, justement, les cieux et...
Gustave Doré.
Gustave Doré,
Là.
Et du coup, le
chanteur,
tu peux faire des rapprochements avec plein de choses, justement. Bah, donc, il y a cette façon de traiter la mort et tout ce côté-là. Mais tu as aussi, à un moment donné, le film, comme il parle quand même du Vietnam, et ça a l'air quand même très critique, rapport au Vietnam, rien que quand le film ouvre sur une scène où tu vois quand même des soldats qui sont très mal en point, qu'on laisse un petit peu dans leur coin, qui se font attaquer par surprise. Tu sens, d'ailleurs, il y a un moment donné, une très grande scène, avec un des soldats qui est assis par terre au milieu et qui pleure. Il fait rien, il regarde autour de lui et il est juste en train de pleurer. Tim Robbins qui est perdu, et quand il se fait poignarder par le l'arme du gars, tu vois la terreur dans son visage et justement traitant du PTSD, donc du post-traumatique, des symptômes post-traumatiques de guerre. Tu te dis, est-ce que c'est pas aussi une image qu'on peut faire, un parallèle qu'on peut faire avec justement quand tu reviens des enfers en final. Et c'est comment est-ce que tu te rattaches à ta vie et comment est-ce que tu retrouves finalement une certaine sérénité, tu vois, comment tu reviens de cet enfer.
Mais parce qu'en fait, je pense aussi toute la partie, on va dire, purgatoire, c'est en fait, il imagine aussi sa vie, en fait, dans sa souffrance. Il est sur son lit de mort, il est en train de souffrir le martyr, et toutes ces douleurs, elles sont illustrées, répercutées dans ce qu'il imagine. On n'a pas dit, donc normalement, avant de partir sur le conflit, il a une femme, il a des enfants, dont effectivement un enfant qui est mort dans un accident de voiture. Quand il revient, pour nous, ce qui est censé être la réalité, sa compagne s'appelle Jézabel. C'est aussi, là, on n'a que des personnages qui ont des noms aussi bibliques.
Ouais.
Et Jézabel, c'est l'épouse du roi d'Israël, Akam, qui veut détourner le peuple, tu vois, et le roi de la bonne voie, tu vois. Et on le voit souvent, elle, dans ses...
C'est ce qu'elle fait, ouais.
C'est exactement ce qu'elle fait. Et souvent, dans ses interactions avec lui, elle est hyper mauvaise. Elle est hyper agressive et en même temps elle est hyper sexualisée aussi, parce qu'il y a aussi ce côté un peu, tu vois, succube, Tu vois qu'elle,
ouais, bah, elle est tout le temps à moitié dénudée, elle est tout le temps collée à lui.
Il y a même cette scène de danse.
Cette scène de danse. Ouais. Et d'ailleurs, elle en prend carrément la forme, quoi. Mmh. Tu vois, avec cette queue de démon qui l'enserre, la corne qui lui sort de la bouche. On sait pas trop. À un moment donné, c'est très saccadé. Il y a des inserts d'images de monstres. On sait pas trop.
C'est une bestiole qui fait très référence un peu à l'univers Lovecraftien.
Ouais,
avec des
ailes, des tentacules, on sait pas trop.
Ouais. Et ils savent effectivement, il y a plein d'apparitions un peu monstrueuses comme ça. Mais souvent, ces apparitions monstrueuses, ou certaines apparitions, du moins, évoquent aussi ce qu'il a pu ressentir sur le conflit. Tu vois, je pense, il y a une espèce de type très musculeux. En fait, on voit juste le tronc avec ce visage qui, tout d'un coup, devient masqué noir, dont l'image est extrêmement saccadée parce qu'il tourne ça, je sais pas. Et on sait tous, l'image c'est 24, 24 images par seconde. Là, on est plutôt sur du 12 parce qu'il faut accélérer le truc, donner cet effet-là. Et tu as l'impression que c'est comme si tu voyais l'espèce de crise d'épilepsie que fait un des interprètes.
Oui, c'est très malaisant.
Voilà. Et tout ça, en fait, tu as l'impression que ça reprend, en fait, dans son imaginaire, des choses qu'il a vécues pendant la guerre. Il y a aussi cette attirance et ce côté, tu sais, effectivement très glauque, qui fait un peu référence aussi à David Lynch ou à Todd Browning dans Freaks, tous ces personnages, toutes ces personnes, c'est dans l'espèce d'hôpital psychiatrique, qui ont des corps difformes. Et tout ça, ça crée une ambiance. Alors, on en parlera sûrement si on parle des jeux vidéo, quand tu retrouves ça dans Silent Hill.
Ouais, mais d'ailleurs, il s'est ouvertement.
C'est revendiqué, les créateurs de Silent Hill. Ouais. Et pour me le dire, moi, c'est un des rares jeux auxquels j'ai joué, Silent Hill, parce que je suis pas très fan de jeux vidéo, mais j'avais joué à ça. Et justement, je crois que c'est dans le 3 où il y a toutes ces scènes dans le métro. Qu'on retrouve aussi dans le film. Et toutes ces en fait.
Je crois qu'ils portent même le même nom que la rue.
C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait.
Là, son quartier, à un moment donné, il demande un arrêt et dans Silent Hill, il a le même nom.
Exactement. Ouais, l'arrêt où il descend, effectivement, où là, la grille est fermée. En fait, il y a plein d'éléments qui, eux, génèrent effectivement du fantastique. C'est quand il descend du métro, il veut sortir.
Il est seul, c'est fermé.
Et tout est fermé. Mmh. Alors, ça devient un trope aussi dans ce genre de film fantastique ou thriller, parce que tu ne peux pas sortir, tu es prisonnier. Mais ça, déjà, ça inscrit le film dans le fantastique, de par cet élément-là. Et après, simplement des visages, des gens qui t'observent.
Ouais, c'est très ils arrivent à garder une ambiance pesante, un peu malsaine, tout le temps. Il arrive tout le temps à faire revenir ce sentiment sans avoir. En fait, tu te sens oppressé. Il n'y a pas de scare jump où il utilise ses trucs un petit peu comme ça, mais dès le début, quand il se réveille dans le métro, déjà le métro est très crasse, sale par terre, les deux panneaux aussi qui nous font voir. Y en a un qui parle de la drogue et qui s'est clairement écrit en lettres rouges énormes l'enfer, quoi. Hell. Donc, t'as ça. Donc, en fait, ce qui est dingue, c'est que. Tu regardes la deuxième fois, il te le dit tout de suite. Le mec, il est où? Il est en enfer.
Tout est déjà annoncé. Et après, il y a aussi une description de New York telle qu'elle n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, le New York crade, comme on voit dans les films des années 70-80 surtout, où il y a ça, ce New York qui est aujourd'hui complètement aseptisé, qui n'existe plus. Ces rames de métro qui sont dégueulasses. Mais tout ça, ça participe à cette ambiance. Et même le grain de l'image, enfin, la photo qui est très gris. C'est aussi pareil aux antipodes de ce que faisait Adrian Lyne, avec des images très très colorées. Alors, encore dans Flashdance, c'est encore différent, parce que Flashdance, ça parle aussi un peu des prolos. Elle, c'est une prolétaire, la meuf, donc des fois, il y a aussi des nuances. Mais sinon, on est très loin de cette imagerie, comme je disais avant, au néon bleu, tu vois, qui a vraiment fait l'image qu'on connaît tous de ces productions des années 80. Mais moi, comme dit, tu veux dire que je suis juste homme?
Disons que c'est vrai que quand tu regardes la filmographie d'Adrian Lyne, c'est vraiment un ovni, ce film, parce que ce sera finalement son seul détour vers le film fantastique. En fait, il aura tous ses films, quand tu regardes ce filmo, ce sera systématiquement, on sera quand même majoritairement dans le thriller érotique ou dans Flashdance, voilà, c'était quand même un film où on mettait Nana qui fait des spectacles très lascifs, de danse un peu érotique, etc. Et la seule incartade, ce sera Jacob. C'est-à-dire que je ne sais pas si au final, est-ce que il est entre Liaison fatale et Proposition indécente. Est-ce qu'il aura, lui, eu une véritable envie de sortir de ce carcan pour se dire, je me tente à autre chose. Le public n'a pas suivi, étant habitué à ce que faisait Lyne. Et du coup, il s'est un peu puni lui-même en se disant, je suis bon que là-dedans visiblement et les gens ne veulent voir que ça. Donc je reste là-dedans et il ne fera plus que ça derrière. Et c'est vraiment... Tu regardes dans sa filmographie, il y a juste Jacob qui est complètement différent.
Mais je pense qu'il aurait eu le souhait, tu vois, de partir dans d'autres productions de ce type-là. Mais comme tu l'as dit, le film a été un insuccès. Et aussi, il y a un insuccès public, mais aussi une espèce d'incompréhension aussi de la part de la critique. Il n'a pas été à l'époque défoncé par la critique, il a été souvent ignoré.
Après, ce qui est dingue, c'est que c'est pas tant. Enfin, moi, après, je trouve la relation relativement sobre. Tu m'expliqueras ou tu nous diras peut-être plus tard s'il y a plus de choses. Il a fait des choses, c'est très bien fait. La notion commune, moi j'ai trouvé qu'il y avait une notion un peu de couleur rapport au moment où il est, tu vois. Après, de toute façon, on est sur de l'ancien, donc on est sur du full spoil, hein, y a pas de problème. Donc on comprend quand même à la fin que tout ce qu'on voit, c'est pas en train de se passer. Il est en train de mourir, effectivement, et là, donc, il est en train d'imaginer tout ça. Mmh. Et c'est ça qui est dingue, c'est cette temporalité qui est complètement inversée, parce qu'au début du film, tu penses que ça, ce qu'on voit, en fait, ce qui est son purgatoire, si on veut, ou son enfer qu'il imagine et qu'il est en train de vivre, nous, on pense que c'est son réel, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quand il a des flashbacks de sa femme et de ses enfants passés, il y a un thème aussi de couleur qui est utilisé, qui est un petit peu différent. Nous, on a l'impression que ce sont
Des fois, ils utilisent du sépia, comme ça.
Ouais, voilà, que c'est une forme de... Ce sont ses vrais souvenirs, en fait. Donc, c'est sa vraie vie, ça, dont il se souvient. Quand il a ces moments où il revient un peu à lui, il est au Vietnam, c'est le réel, alors que nous, on pense que c'est du passé. Tu vois, et qu'il est en train de rêver, c'est vachement bien fait. Il y avait un petit code couleur. C'est que dans sa façon d'interpréter le scénario qui lui peut-être était difficile d'accès, ça je peux comprendre. Le gars qui est habité, tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a vraiment touché les trucs mystiques et qui a écrit ce truc-là, tu sens qu'il y a quelque chose vraiment de lui, il est vraiment, vraiment habité par ce truc-là. C'était difficile, ça c'est difficile à accepter, je pense, pour une certaine audience lambda, on va dire, qui n'est pas spécialement initiée. Mais ce que lui en fait, la réalisation qu'il a de ce scénario-là, elle est très bonne, au final. C'est ça que je veux dire. C'est pas forcément son idée à lui de faire ça. Lui, il l'interprète.
Oui. Ouais. Après, au niveau de la mise en scène, elle donne le sentiment d'être relativement sobre. Il y a plein de moments, de séquences. Je pense beaucoup, en fait, chez le chiropracteur, chez lui. Ouais. Il y a des séquences qui sont vraiment, qui paraissent très anodine, rien que des plans larges ou en fait où ils sont toujours très proches des deux comédiens quand il est chez le chiropracteur. Tout d'un coup, tu as la caméra qui sort et qui prend, en fait, qui filme l'intérieur. Et en fait, quand il filme l'intérieur, quand lui se relève, c'est comme, en fait, c'est à chaque fois qu'il y avait une espèce de révélation. Et du coup, nous, on est témoins de sa révélation. Il y a plein de mises à distance comme ça, des fois, avec la caméra qui donne, en fait, un point de vue autre qui se recule par rapport à l'interaction qu'ont les deux personnages,
parce que ce personnage de chiropracteur, en fait, finalement c'est un peu son ange,
c'est
gardien,
un ange, ouais. Il est espèce de halo. En même temps, à un moment donné, il lui dit, tu vois, on dirait un ange, et c'est vrai, à chaque fois qu'il apparaît, c'est une espèce de ange salvateur.
À lui, c'est un peu son, comme il est en train de tout imaginer, c'est effectivement, on peut l'interpréter comme étant l'ange qui veille sur lui et qui, lui, va essayer de l'extirper des enfers, comme il lui explique, justement. C'est là qu'il évoque Maître Eckhart, en lui disant, alors il le transforme un petit peu ce qu'il est en train de dire, mais en gros il lui dit que ton enfer, c'est toi qui le fais. Et il faut que tu oublies ce que tu étais, c'est-à-dire sa femme, sa douleur qu'il a eue de perdre son fils, machin. Mais il faut que tu acceptes tout ça. Et il faut aussi que tu fasses la paix avec toi-même et que tu acceptes...
Et tu acceptes même de mourir.
De mourir, exactement.
Il faut accepter la mort.
Une fois que tu auras accepté tout ça et que tu auras plus de... Comme il dit, normalement, c'est ce néant en toi. Enfin, bref, tout ce qui te retient, tout ce qui te fait du bien. Une fois que tu auras fait la paix avec tout ça, bah, tu pourras partir et vraiment mourir, du coup, et puis pas rester aux enfers, quoi.
Parce que c'est même la dernière réplique du film, le médecin qui s'occupait de lui pendant la guerre du Vietnam, qui lui dit il a lutté longtemps, tu vois, il a vraiment lutté jusqu'au bout, alors que s'il avait cessé de lutter, il serait mort, mais il serait peut-être mort plus en paix, tu vois.
C'est le moment où ce qui est important à la fin, moi, ce que j'ai noté, c'est que on dirait que c'est une fin tragique, parce que le personnage meurt. Mais en fait, je trouve qu'il y a un vrai symbole, bah, finalement, d'espoir, parce que pour le coup, il va à la lumière, et en effet, bah, là, il a monté
libéré, ouais,
cette fameuse échelle où il passe vers le paradis, et c'est surtout au moment où les médecins là, qui déclarent sa mort, vont le nommer et vont dire son nom, comment il s'appelle. Et, souvent, ça, c'est un thème très récurrent, c'est la déshumanisation. On en parlait déjà avec Metal Jacket, etc. Et c'est pas pour rien que dans la partie qui est la partie prédominante du film, la partie purgatoire, très souvent dans ces délires, les personnages, ils n'ont pas de visage. Comme tu disais, il y a un côté très clipesque, parfois l'impression d'être dans des clips de Marilyn Manson ou de Björk, avec des effets très cutés, des personnages qui bougent dans tous les sens, très hôpital psychiatrique comme ça. Et là, en effet, les personnages voilà, n'ont pas de nom, n'ont pas de visage, et à la fin, ça se termine où ils disent enfin son nom et on lui rend justice alors qu'il part, lui, vers la lumière. Et ça, je trouvais que c'était beau.
Tu voulais dire quelque chose, Jules ?
Avant que Tom prenne la parole. Ouais, bah c'est vrai que c'est ce côté. Non, c'était juste de dire ça effectivement que je trouvais que ouais c'était quand il revient à lui, c'est marrant. Ouais, c'est cette temporalité. À chaque fois qu'il ouvre les yeux, quand il revient là-bas, tu reviens des scènes où il a, on a l'impression que dans son purgatoire qu'il meurt. Quand il revient, il dit à chaque fois je suis pas mort. Mm. Alors qu'il est donc quand il lutte, tu vois, à chaque fois il revient, il dit non, je suis pas encore mort. Et c'est marrant. J'ai beaucoup aimé en fait. C'est ça, c'est d'avoir cette temporalité, de te dire. Je pense qu'une revisionnage du film une deuxième fois, tu vois, une fois que tu as le twist final, ça peut être très intéressant parce que j'imagine qu'on doit le voir encore vraiment différemment.
C'est important aussi ce que tu viens de dire par rapport au twist final. Ce coup de théâtre, ça en fait. C'était une période où on a eu beaucoup de films avec des coups de théâtre, ce qui n'existait pas vraiment avant. Ou alors, du moins, c'était beaucoup plus marginal. On a eu quelques années avant, il y avait Angel Heart de Parker. Mais après ça, on aura des films comme Usual Suspect, ou genre de choses, ou même Sixième Sens. Et en fait, c'était rare. On n'avait pas souvent, tu vois, des scénarios comme ça à coups de théâtre. Mmh. Aujourd'hui, on n'a que ça. Hein, parce que les mecs, ils ne savent plus quoi inventer, donc ils nous mettent des twists, des retwists, des machins. Mais à cette époque-là, tu vois, c'était quand même relativement rare. Et ce qui fait, c'est aussi ce qui fait un petit peu l'attrait, tu vois, de ce film-là et du scénario, c'est de se dire, ah, ok, on m'a déjà baladé, j'ai déjà du mal à saisir. Et en plus, il y a un coup de théâtre. Moi, je pense que c'est typiquement, comme à l'époque quand j'avais vu Usual Suspect, ça m'avait donné envie tout de suite, dans la foulée, de revoir le film. Et effectivement, quand tu fais une deuxième lecture, tu as plein d'éléments en fait,
auxquels
tu peux
te rendre. Dans le film.
C'est ça, il y en a énormément.
Dès le départ, comme tu disais, les affiches dans le métro, on te fait comprendre qu'il y a des histoires de médicaments, etc. Là, la scène avec la cartomancienne aussi, où elle lui dit en fait, ouais, qu'il est mort.
C'est ça, mais en plus, si tu le dis, le film te le dit ouvertement, c'est ça qui est dingue. Même dès le début, quand il passe. Et le pire, c'est que tu. C'est ça qui est bien, c'est que tu acceptes en te disant, bon, il est victime de stress post-traumatique et du coup, il est capable d'imaginer tout et n'importe quoi. C'est juste lui qui est en train de devenir dingue. Donc, dans un premier temps, tu te dis, ben, ce sont ses démons à lui parce qu'il a été vraiment choqué et que du coup, il voit un peu n'importe quoi. Donc, dès le début, la femme qui le regarde, qui lui répond pas, bon, on se dit juste, ben, c'est une meuf chelou dans un métro chelou. Voilà, le premier. C'est un homme qui est allongé et puis on voit pas son visage aussi, il est complètement recouvert. On voit juste ce que tu disais tout à l'heure, il a une sorte de queue où on sait pas trop ce que c'est, très organique comme ça. Et tu te dis, bon voilà, mais dès le début, voilà, on a tout de suite des indices pour ça. Mais tu te dis, bon allez, ça vient de lui. Et ensuite, un petit peu plus tard dans le film, t'as même, c'est de plus en plus lourd la situation parce que quand il essaye de revoir son médecin, bah, le médecin, bizarrement, il a disparu ou il est mort et puis on lui dit qu'il est mort dans un accident bizarre. Lui, on retrouve pas son dossier. Tu te dis, attends, est-ce qu'il perd complètement les pédales ou on est en train de perdre un peu le pied là-dedans? Et d'un seul coup, il y a un twist, c'est celui aussi où tu comprends qu'il est pas le seul. Tous ses copains de peloton qui ont vécu cette situation-là, qui ont survécu, ont les mêmes traumas, voient les mêmes choses. Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas une raison rationnelle à ça? Et là, on rationalise en te disant, eh ben, on les a drogués. Donc là, on est sur la partie du film qui critique justement le Vietnam et toute cette histoire de drogue BZ là, qu'ils ont appelé, qu'ils auraient utilisé, mais qui n'a jamais été vraiment prouvée. Et tu pars dans ce truc un peu, ok, bon, finalement, on est dans un thriller militaro-politique.
Complotiste,
voilà. Et puis finalement, tout ce qui s'inscrit dans le fantastique autour, c'est issu de la drogue qu'on leur a fait prendre. Donc finalement, on est ancré dans quelque chose de très réel et plus rien à voir avec quelque chose de mystique où tu serais, tu vois, entre la vie et la mort, peu importe, même si tu pouvais l'imaginer. Et à la toute fin, on te ramène de nouveau dans ce truc-là en te disant, si, c'est bien ça qui s'est passé. On en a profité pour peut-être parler de deux, trois choses dont on avait envie de parler, notamment, comme tu disais, ben, le LSD, le truc qui sont utilisés. Mais voilà, et encore, donc toutes ces lignes de lecture, faites, franchement, que ça s'emboîte vraiment bien. Après, comme je dis, c'est à
ça
la
s'emboîte bien, mais ça pourrait te perdre aussi. Parce,
ouais,
que, c'est... parce qu'effectivement, toute la partie sur la drogue, sur les expérimentations, à un moment donné, en tant que spectateur, tu t'interroges effectivement en te disant est-ce que c'est la résultante, tu vois, de... enfin, est-ce que ces hallucinations sont la résultante encore de cette drogue-là ? À un moment donné, t'es perdu avec tout ça et tu oublies, enfin tu oublies, c'est pas que tu oublies, c'est que t'as pas de suite le réflexe de te dire oui non en fait il est dans un purgatoire, il est en train de d'imaginer tout ce qu'il vit. Donc à un moment donné tout ça pourrait un petit peu s'embrouiller et je pense qu'effectivement comme tu disais c'est la fin, c'est ces deux scènes finales, donc l'élévation quand il prend l'échelle de Jacob avec son gamin qui est dans la lumière et
qui d'ailleurs
effectivement,
interprété par
Macaulay Culkin
qui la même année tourne du coup le Maman j'ai raté l'avion, ouais. 1990, mais c'est marrant parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est la même année mais alors c'est peut-être aussi la coupe qui joue.
Il paraît plus grand dans...
Dans Maman, j'ai raté l'avion.
Parce qu'il n'a pas la... Ah, oui, oui, oui. Bah là, il est là.
Bon, là, il joue aussi le... il joue le petit garçon, quoi. Comme là, il l'interprète.
Alors, Mike vous nous dit qu'il est là parce qu'on est en train de diffuser le film. Parce que vous, vous auditeurs, vous n'êtes pas spectateurs, vous ne voyez pas qu'on
on,
est en train de diffuser
le film.
Voilà.
C'est pas pour rien que ce personnage de... je trouve c'est pas anodin que dans le scénario, donc, il y ait ce personnage de petit garçon qui soit mort avant... la guerre, vraiment avant, voilà, que parce que t'as vraiment ce côté où c'est finalement le seul personnage, le seul tiers qui aura pas connu le personnage de Tim Robbins après la guerre, tu vois, post-guerre et post-détruit, les horreurs qu'il a commises, les horreurs qu'il a connues, et c'est vraiment pas anodin qui souhaite retourner vers ce personnage innocent, tu vois, et ça ça se trouve, c'était chouette.
D'autant plus que t'as raison, parce que dans. Alors, on sait jamais si sa femme, donc la première femme, celle qu'il imagine en rêve, c'est-à-dire celle qui est habillée, pas celle qui a les cheveux, pas Jézabel, l'autre femme. Et,
Sarah, je crois.
Ouais, c'est possible, j'ai oublié son nom. Donc, éventuellement, Sarah, qui est donc la mère de ce garçon-là qui est mort avant qu'il parte au Vietnam. Et quand il discute avec Louis, on comprend que normalement, lui, il a une formation.
Philosophe,
ouais, il est docteur en quelque chose lui aussi, donc en philosophie on imagine, donc c'est quelqu'un qu'on n'imagine pas finir au Vietnam, et finalement ce serait le traumatisme de la perte de son enfant qui lui aurait fait à un moment donné partir au Vietnam. Ça c'est pas vraiment expliqué dans le truc, mais effectivement à un moment donné, tu te dis qu'il a, c'est quelqu'un de très, enfin pas très rationnel, mais de réfléchi. Il est quand il revient, bon,
au Vietnam, d'ailleurs, on l'appelle le professeur.
Hein. Ouais.
Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi parce que je trouve que Tim Robbins, je pense que c'est pas anodin qu'il ait été choisi aussi. Je trouve qu'il a un physique très lambda, très monsieur tout le monde. Tu vois, c'est pas, enfin moi comme ça quand je le vois, je me dis pas c'est le physique du gars que je vois en bidas à la guerre
déjà,
avec son arme et tout ça,
musclé,
tu vois.
Ouais.
Et justement ça rejoint le fait que finalement c'est un professeur, c'est quelqu'un d'érudit, et ça renforce cette idée que ben voilà, à l'époque t'as des gens qui sont partis et qui se sont fait bousiller dans cette guerre là et qui étaient pas du tout faits pour ça et qu'on n'imaginait pas du tout dans ce contexte là.
Mais ce qui est intéressant, c'est du fait qu'il a une formation de philosophe. Apparemment, il a fait 6 années de philosophie. La première séquence, on le voit dans le métro, il est en train de lire L'étranger de Camus. C'est un grand lecteur, il s'est souvent répété, mais par contre, il ne fait jamais place à la réflexion. Il ne prend jamais le temps de la réflexion.
Sauf quand il parle avec Louis.
Mais c'est parce que c'est lui qui l'incite.
Comme si c'était sa conscience, bah ouais, toi, qui lui,
mais
justement, lui parle, quand
mais
on,
c'est,
on réfléchit.
Mais surtout, c'est même pas tant lui qui réfléchit. Enfin, c'est lui le chiropracteur qui réfléchit à sa place et qui lui donne des pistes de réflexion. Parce que l'autre, en fait, depuis qu'il est là, alors ça explique aussi cet élément de purgatoire qui voudrait que seules les émotions, tu vois,
s'exprime
et prévaut face à la réflexion, et c'est vraiment ce qui se passe là. Et l'autre est tout en train de le rattraper en disant attends, prends le temps de réfléchir, pourquoi t'en es là, qu'est-ce que tu peux faire, comment ça se fait que tu te retrouves encore à être postier. C'est aussi intéressant pourquoi il est postier, tu vois, dans cette scène de purgatoire. C'est on le voit jamais exercer son métier.
Ouais, non, on le voit à un moment donné, il est dans les locaux un peu.
Mais ouais, mais il exerce pas
son métier. Dans le centre de tri, on s'imagine, ou dans son camion, mais c'est vrai que.
Il exerce pas son métier, il porte par contre un uniforme. Il a troqué un uniforme pour un autre.
Ouais.
Parce que il faut avoir, en fait, il faut l'identifier, avoir une identité, peu importe où tu te trouves, tu vois. Donc, pour savoir que tu existes, on te donne des oripeaux. Donc là, c'est la tenue du facteur, du postier. Et c'est le post-it, c'est quoi? C'est aussi celui qui transmet. Donc il est censé transmettre quelque chose, tu vois. Mmh. Mais en fait, c'est lui qui est en attente, tu vois, d'une espèce de transmission. C'est aussi intéressant, c'est de se dire que quand tu as été au Vietnam, tu as porté un uniforme. Si tu veux être réhabilité, il faut à nouveau porter un uniforme. Tu es sclérosé, tu vois, enfin, et harnaché à une tenue vestimentaire qui t'identifie. Non, moi je trouve que c'est un film passionnant. En plus, visuellement, comme on disait tout à l'heure, il y a eu énormément d'influence, mais c'est aussi un film qui l'a influencé, bah, que ce soit Jérôme Bosch, on l'a dit tout à l'heure, Gustave Doré, mais aussi Francis Bacon. Enfin, il y a, que ce soit de manière picturale ou bien littéraire, il y a énormément d'influence. C'est assez passionnant à étudier. Et comme tu disais, on l'a vu après, ce qui en a découlé, que ce soit le jeu vidéo ou les clips, ça a quand même été extrêmement marquant.
La scène de. Enfin, tu disais tout à l'heure par rapport à Silent Hill, c'est vrai que la scène de l'hôpital, tu sens vraiment qu'elle a inspiré ensuite d'autres auteurs, mais que ce soit Silent Hill, moi je pense aussi à HS, American Horror Story, des choses comme ça. Cette scène, elle est vraiment particulière, je trouve, dans le film. Elle te sort complètement du récit, elle est hyper glauque, elle est hyper malaisante, elle est très trash, dans tous les sens du terme. Elle est vraiment. Tout d'un coup, tu passes du fantastique à l'horreur. En fait, c'est vraiment un film qui flirte avec plusieurs genres comme ça. C'est ça aussi qui te perd aussi et qui peut séduire en même temps. C'est tu passes vraiment du fantastique à l'horreur. Tu reviens sur le thriller complotiste, sur le film de guerre. Mais vraiment, la scène de l'hôpital, c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué.
Vraiment, ah oui, mais c'est vraiment parce qu'ils le redescendent en fait. Tu vois, c'est-à-dire il est en train d'essayer de comprendre quelque chose ou quoi et de s'élever dans la situation dans laquelle il se retrouve. Et ben quand il se retrouve harnaché à ce truc, comme tu dis, qui petit à petit et chaque étage quand ils avancent, ça se dégrade. Tu vois, d'abord tu passes effectivement par une certaine forme de malaisance parce qu'il y a des gens forcément qui sont dans un asile psychiatrique. Après, en descendant un peu plus bas, on a l'impression qu'ils tournent toujours dans le même sens et on voit des gens un peu difformes. On revoit le corps sans jambes avec la tête cagoulée qui bouge d'une certaine manière. On voit des gens qui ont des jambes un peu plus courtes, c'est ça, qui sont, ils sont au-dessus de lui. Il y a une sorte de grillage et il marche au-dessus. Et puis voilà, comme tu dis, on voit un peu cette difformité, les corps et les trucs comme ça. Et ensuite, il arrive à ce fameux niveau où il y a du sang, des morceaux partout. Et là, comme tu disais aussi, ça fait, je pense, référence à ce qu'il a vécu au Vietnam. Et c'est ce qu'il voit à un moment donné quand lui, il est dans la dernière scène, dans le dernier endroit où ils sont, où justement il y a cette fameuse attaque où ils sont en fait tout simplement en train de s'entretuer. Il y a de la barbac partout, des mecs qui ont les jambes découpées, arrachées.
En fait, la fiction horrifique, là, à ce moment-là, c'est de la fiction horrifique et elle reprend complètement, elle représente finalement le réel de la guerre, toi. En effet, avec la barbaque, les décors très, très, très ternes, c'est complètement délabré. Et moi, ça me faisait vachement penser à, pour le coup, à Babylone. C'est à cette scène très étrange avec Tobey Maguire. Tu sais, oui, c'est pareil, il descend de niveau en niveau. Et à chaque fois, plus tu descends dans les niveaux, plus c'est glauque, plus c'est trash. Et je pensais vraiment, ça m'a vraiment fait penser à ça.
Mais je pense que la référence, c'est quand même à nouveau Dante et la Divine Comédie, parce que l'enfer, c'est les neuf cercles de l'enfer. Enfin, c'est neuf zones circulaires qui font qu'à chaque fois, ils descendent d'un étage. Et chaque fois, plus tu descends, plus l'horreur est encore plus prégnante. Et c'est là où on disait tout à l'heure, ça rappelle aussi Jérôme Bosch avec tout ce visuel et ces démons qui apparaissent. Mike.
Toi, tu mets mon démon à moi.
Toi, tu me fais quelque chose. Toi.
Je suis quelqu'un.
Toi, t'es quelqu'un.
D'autres choses à rajouter sur ce film-là?
Moi, alors, juste pour conclure, je pense qu'il faut. Je le conseille quand même, parce que c'est un film qui est quand même passionnant. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est un film qui a été réhabilité avec les années. Il n'est pas évident à appréhender, ça c'est certain. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, mais je pense que c'est un film quand même qui reste passionnant.
Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement moi ce que j'ai aimé entre guillemets, c'est vraiment ce cheminement. Et moi, j'avais déjà capté dès le départ que c'était vivait son purgatoire.
Mais toi, t'es un homme plus éclairé que nous.
Mais c'est ça. Je suis un peu plus éclairé. J'ai pas beaucoup d'analyse, mais moi je sais un petit peu, tu vois. Ça fuse, c'est tout de suite là, mais ça s'ancre pas profondément. Et puis non, mais voilà, ça j'ai bien aimé. Après le reste, en tout cas, j'ai découvert un film sympathique. Merci beaucoup, Mathieu. On va passer à la deuxième partie de cette émission, messieurs. Nous allons demander à notre ami Loris de venir nous rejoindre, car je vous laisserai Loris, je te laisse ma place pour parler
tu
du film non, de Guy Ritchie, Opération Fortune, russe de guerre, disponible actuellement sur Prime en SVOD. À vous la parole, les studios.
Russe de guerre.
Alors, je commence vite, très rapidement pour introduire le film et je passe rapidement la parole au copain. Pour moi, c'était l'occasion de parler de Guy Ritchie, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je l'ai répété à plusieurs reprises, que je n'apprécie pas ce réalisateur.
Pas trop, ouais.
Je trouve qu'il a fait beaucoup de très mauvais films et qu'il est surestimé par beaucoup. Et là, c'était la bonne démonstration. Je n'avais évidemment pas vu le film avant de vous le proposer. Et je pense que ce film illustre bien la médiocrité des personnages. Mais ça n'est que mon avis. Donc, je passe tout de suite la parole à mes copains. Loris, tu viens d'arriver. Vas-y, commence.
Bonjour, merci de
m'avoir invité
pour parler de ce film. Ça fait super plaisir. c'est difficile d'en parler comme ça parce que, comme tu le dis, Mathieu, il n'y a pas grand chose qui ressort en fait du film. Je sais qu'on l'a regardé avec Julien ensemble et au bout d'une heure, je crois que j'ai quand même posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que je n'arrivais même pas à suivre la trame narrative du truc. Bon, j'imagine que le film n'est pas destiné à avoir une trame narrative super développée, mais plutôt réside sur ces scènes d'action et autres, quoi. Et pour le coup, bon, il y a certaines scènes d'action qui sont ok, c'est divertissant. Je sais que j'ai rigolé peut-être 2-3 fois, donc je me suis dit, au moins je peux sortir du film avec 2-3 punchlines et puis des blagues qui sont assez correctes. Mais après, Jason Statham, il fait du Statham. Aubrey Plaza, elle est plutôt bien dedans, mais après tu te dis, finalement, il y aurait pu y avoir 50 autres actrices qui auraient pu avoir sa place et ça aurait été la même chose. Enfin voilà, j'ai finalement... je sais pas trop quoi en ressortir de ce film, si ce n'est que
ça t'a diverti un tout petit
peu. Ça m'a diverti un petit peu et voilà. Donc très difficile d'en avoir un avis éclairé, quoi, parce que finalement le film cherche pas à faire grand chose.
Après, il y a quand même un truc, c'est que sur ce que toi tu dis, Mathieu, si t'aimes pas Guy Ritchie pour ce qu'il fait d'habitude, là c'est pas ce qu'il fait d'habitude, justement. Il y a plein de trucs qu'il a laissé de côté, qu'il a arrêté de faire. Alors attends, je suis pas en train de dire que c'est bien, attention, mais je dis, il y a plein de choses qu'il faisait d'habitude, qu'on s'attend à voir, ces ralentis, ces trucs, ces machins, qu'il n'y a pas dans le film
inserts.
Cette fois, pour une fois, ça, il n'y en a pas.
Mais il utilise toujours, il y a cette utilisation de la musique. En fait, c'est là où, en fait, c'est une espèce de sous-Tarantino. Tarantino sait utiliser la musique pour mettre en scène, pour aider. C'est même pas chez Guy Ritchie, c'est la musique qui doit mettre en scène. Le meilleur exemple, c'est la manière dont le film commence. C'est avec la musique qui donne le tempo, où tu entends les
pas au rythme et tout.
Voilà. Et ça, en fait, c'est pas de la mise en scène. Ça pour moi, c'est nouveau, un effet un peu de manche, un effet chic. Et Guy Ritchie, c'est que ça. Ne sachant pas où placer sa caméra, donc il a que des effets de manche comme cela. Et tout le film, c'est un peu ça. Moi, je pense que toi, tu compares par exemple à des films,
Si tu prends ses premiers films, Arnaque, Crime et Botanique ou autre, justement, quand il présente ces deux personnages, il les met dans une certaine situation. Il n'est pas en train de nous faire une voix off qui nous fait une description du truc, mais tu comprends tout de suite ce qui se passe. Il y a quelques mouvements de caméra qui sont quand même intéressants.
Là, c'est surtout des plans d'insert.
Il y a pas que ça, il y avait aussi
Dans Snatch ou dans
c'est, au début c'est que quand ils, à un moment donné ils sont en train, je te prends juste l'exemple de c'est son premier film, Arnaque, Crime et Botanique, donc sur son premier film il a ses idées et ces deux personnages entre guillemets principaux sont en train de faire de la vente à la sauvette ou alors ils font des jeux de rue, enfin bref, qui sont interdits, les deux policiers arrivent et commencent à leur courir après. Donc, et là ils jouent déjà avec ses ralentis, ses façons d'avancer la caméra d'une certaine manière, de reculer, tout ça mélangé. Mais ça lui... Ok, on aime, on n'aime pas, c'est facile, c'est pas facile, mais ça lui donne ce style un petit peu. Et l'intro, elle était quand même très intéressante et tu comprends qui sont les personnages très rapidement. Là, franchement, moi, cette présentation-là qu'il a faite, comme tu dis, là, quand ça marche au pas et qu'il y a le gars qu'on a tous vu, et on ne sait plus son nom, là, qui s'est fait mettre du plastique dans le visage. C'était...
Le
chef des opérations. En fait, je crois à aucun des personnages. Tu vois, je veux dire, rien n'est... La spécialiste en informatique, justement...
Aubrey Plaza.
Ouais. Alors que moi, j'aime beaucoup, parce que, donc, comme nos références, Park and Rec et machin, son humour, on le connaît, elle peut être très drôle. Et en l'occurrence, elle est drôle dans le film, parce qu'elle a ses petites punchlines. Et au final, c'est les deux personnages qui m'ont plu le plus, c'est elle et Hugh Grant qui joue le
mégalo. Hugh Grant est ok, ouais, c'est vrai.
Ouais, parce que tu sens qu'il s'éclate à le faire, ouais, ouais. Et il le fait vachement bien. Il a même une ou deux scènes relativement intéressantes,
c'est vrai.
Avec Josh Arnett qui d'ailleurs lui,
ouais,
lui
il est
rend
bien, aussi.
Bien parce qu'il il le fait bien. Au final, il est carrément il est vraiment admiratif de ce mec, il le trouve vraiment classe,
ouais, ouais.
Et c'est ça qui est assez sympa. Statham, bah ouais, qu'il est là, il fait du Statham, c'est-à-dire la moitié du film, il met des mandales, et l'autre moitié, il joue l'anglais un peu classe. Il fronce les sourcils, c'est ça. Donc voilà, le Black est anecdotique, je sais même plus qui c'est un rappeur, si tu le connais, ça peut être
Bugsy
fun,
Malone.
Mais voilà, moi je le connais pas, et du coup, pour moi, il fume deux, trois mecs de loin avec un fusil à lunettes, et il sert à rien d'autre. Et voilà, donc, mais l'histoire est cousue de fil blanc, tu vois, il y a plein de trucs. J'ai préféré, je pense, regarder le film avec Nicolas Cage il y a quelques temps, là, sur où il joue son propre personnage, parce que justement, on a un peu ce talent
avec
massif,
Pedro Pascal.
Où il y a ce truc où c'est aussi, il joue la méta, où il joue son propre personnage, tu vois, voilà, ce truc-là. Mais ouais, l'intro, les premières minutes, là, je l'ai trouvé, pareil, on se regarde avec l'eau, on se dit, putain.
Après, est-ce qu'il n'y a pas les directives de Amazon qui doivent être un peu aussi peut-être difficiles à.
Alors, le film était
des
pas,
contraintes.
Le film n'était pas prévu pour Amazon.
Ouais,
le film devait sortir au cinéma, mais à cause de la guerre en Ukraine, vu que les méchants, il y a des Ukrainiens dans le film,
ça
a complètement. Normalement, il devait sortir là il y a un an et demi. Le film a vraiment eu une carrière très compliquée. Et il a été sorti, d'ailleurs, à la va-vite aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il. Je crois deux semaines avant qu'ils sortent, ils ont annoncé dans 15 jours, il y a Opération Fortune Rousse de Guerre qui sort. Donc, aucune
marketing
promo,
zéro.
Marketing zéro. Le film a floppé complètement aux États-Unis. En fait, ils s'en sont débarrassés et à l'international, il est sorti dans pas mal de pays. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il est sorti au cinéma et en France, il est sorti sur Prime.
D'accord.
C'est Amazon Prime qui l'a récupéré, mais ils n'ont rien à voir du tout.
Ok, d'accord.
Guy Ritchie, on est quand même très loin, c'est des Snatch et compagnie où il jouait une espèce de film de gangster à prolo. Très prolo. Là, depuis quelques films, que ce soit Gentleman, Un homme en colère, finalement, ce sont des héros très endimanchés, très 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 classe, parce que maintenant, enfin, ils surfent un petit peu sur ce côté gangster british, tu vois, très
c'est
monté
bourgeoisie, dandy. C'est exactement ça.
Mais ouais, déjà à l'époque, moi, je trouvais ça un petit peu naze. Mais alors, à l'époque, quand ils jouaient les prolos, mais alors là, c'est il y a un côté, tu as Mission Impossible du pauvre.
Il y a tout du pauvre. C'est un mission
possible
pauvre.
Attends, c'est ouf, c'est que non mais c'est la débauche de pognon,
Ah oui, il a quand même 50 millions. On avait regardé.
Ouais, c'est un budget de 50 millions, mais quand tu vois les ambiances dans lesquelles ils sont, les environnements, quoi.
Ouais,
putain,
mais il en fait rien.
Mais il fait des vacances.
Non, mais je suis d'accord qu'il en fait rien. Mais
il aurait tourné le film chez Pierre et Vacances, c'était mieux. Il aurait économisé de la thune et il aurait prouvé en
termes. Vous n'avez pas compris. C'est lui qui se fait un tour du monde à chaque fois.
Non, mais c'est.
Mais en fait, c'est ça. Et en fait, la débauche, tu vois, de budget, tout ce pognon là, c'est pour louer un yacht, c'est pour des beaux costumes. Alors, il y a un côté très clinquant. Mais moi, j'attends toujours quand je vois un film avec Jason Statham, tu dis il donne des mandales, mais très peu. Il y a très peu d'action.
Ouais, il y a trois scènes d'action.
Et les scènes d'action, elles sont hyper plan-plan, quoi. Mm. C'est vraiment pénible. Et entre l'autre qui joue les snipers, tout d'un coup il débarque de nulle part, boum, boum. Ah oui, ok, bon, bah ça nous arrange bien parce que ça fait avancer l'intrigue. Mais c'est vraiment, enfin, c'est hyper pénible. Vous disiez Hugh Grant. Oui, alors Hugh Grant, c'est vrai que depuis quelques temps, maintenant, il s'est dit bon. Je commence à vieillir, c'est pas moi qui vais emballer Julia Roberts, donc maintenant je vais faire des méchants. Donc il fait des méchants, des espèces de caricatures un peu de méchants, comme dans Donjons et Dragons. Il s'est plutôt réjouissant à voir parce qu'on l'attendait pas là-dedans. Bon, il a déjà tourné des rôles de méchants dans fin des années 90, mais c'était très anecdotique parce qu'il est quand même vachement circonscrit à son rôle de Playboy. Et là, c'est vrai que ça c'est assez jubilatoire de le voir faire, sauf qu'il n'est pas aidé par des bons dialogues. C'est là où c'est triste. Parce que le niveau de l'écriture, pour moi, c'est très très faible, hein, sans déconner.
Ouais,
Franchement, c'est un collégien qui a utilisé une AI.
Oui,
quoi.
Il a quelques lines qui sont pas mal. Une de ses dernières scènes est vraiment sympa. C'est une de celles que j'ai préférées du film.
Ça lui fait exploser les satellites.
Cette scène de fin, là, un peu, justement.
Oh non, les gars.
Non,
on s'y attend tellement. Putain, franchement.
Non, mais j'ai pas dit que je m'y attends pas.
C'est lourd.
Et que
c'est pas le pic du film.
Le film est lourdingue, de toute façon. Du début à la fin, il n'y a rien de spécial. C'est le seul truc. Je me dis, ouais, bon, d'accord, ok, ça c'est pas trop mal fait. J'aime bien ce qu'il raconte. J'aime bien Josh Arnett à côté et sa façon de réagir à ce que l'autre vient de faire. Mais c'est. Je sais pas comment dire, c'est pas mystifiant, hein, c'est juste voilà, dans tout le reste où vraiment je me tape la tête, la main contre le front, où le mec il le balance par-dessus bord et l'autre il est en bas et il lui dit ah ça c'est le bon, enfin bon,
ouais, bref, mais comme dit si tu veux voir un film comme ça, regarde un Fast and Furious.
Ouais.
Qui franchement est meilleur. Fast and Furious, au moins tu t'en prends plein la gueule et puis mais le niveau d'écriture est le même, quoi, j'ai envie de dire. Mais au moins t'en ressors avec satisfaction. Ici, c'est vrai que c'est difficile de trouver les moments où.
Moi, ce genre de film, si je sais que l'écriture elle sera bancale, elle sera
ça
mal
te fait
dialoguée.
Chier déjà d'avance.
Non, mais je me dis au moins je vais me rattraper avec des scènes d'action.
Bah voilà, c'est ça.
J'attends de l'action.
Bah, Fast and Furious, voilà. Te le donne.
Mais là, t'as pas d'action. Bah, et le peu d'action que t'as, ouais, franchement, c'est... Putain, t'as l'impression que, c'est... Enfin, que ça a été branlé par un étudiant en cinéma. Quoi.
Tu regardes les jolies voitures, les jolies dames avec leurs belles robes, les jolis bijoux.
C'est ça, c'est la question à se poser, c'est quand ils font le film, c'est quel est leur objectif, en fait. C'est ça, des fois, t'arrives pas à comprendre. C'est-à-dire que quand ils se réunissent, ils se disent bon, on va faire un vrai film d'action, ou on fait un film drôle, ou on fait un film, tu vois. Tu trouves pas, tu comprends pas en fait le cheminement.
Oui, c'est comme s'il avait tout le temps le cul entre deux chaises. On sait pas si c'est une parodie.
Du coup, t'es là, t'es entre le chaud et le froid, et t'es là, bon, ben c'est tiède, et du coup, ben t'as pas envie de regarder.
Ça pue vraiment, tu vois, les réunions avec les exécutifs qui nous disent bon, ok, nous on a une cible, tu vois, de profil de spectateurs qui pourraient venir. Alors qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment aujourd'hui?
Ouais, voilà,
ils aiment quoi? Ils aiment putain, le clinquant, ils aiment la musique, ils aiment qu'est-ce qu'on pourrait mettre, tu vois? Et puis avec ça, ils nous font un pot pourri.
Ah,
ils nous balancent ça, oh, c'est bon.
C'est une IA qui a écrit.
Mais
exactement.
C'est une IA qui a écrit le truc. Mais ça a pas d'âme, ça a pas de cœur. Et moi, Jason Statham, moi je l'ai déjà dit, j'adore les films d'action un peu bourrin, un peu concon avec Jason Statham. Bah, quand j'ai un film avec Jason Statham, j'attends qu'il foute des tatanes.
Oui, il vieillit aussi, donc c'est normal qu'ils mettent au prorata moins de patates.
On va dire ça à Tom Cruise, Julien. Voyons.
Ouais, mais Tom Cruise, c'est pas pareil.
Non, Jason, enfin, je crois encore en toi. Hein. Pas très longtemps, hein, mais.
À la base, c'est un mec qui fait des plongeons, Jason Statham, s'il vous plaît.
Oui,
il fait un peu de jiu-jitsu brésilien, mais normalement, lui, son truc, c'est les plongeons.
Il est en
maillot de bain et il plonge.
Ouais, mais attention, il est ceinture noire de je sais plus quoi, non, il fait des armatures.
Non, mais il est. Ouais, il
à l'origine, il est effectivement.
Ceinture violette de jiu-jitsu brésilien.
Non, mais maintenant, je crois qu'il a acheté une ceinture. Je crois
et il fait de la danse classique aussi.
Sur Intersport, il a acheté un truc à 10 balles. Maintenant, c'est bon, il est classé.
Mais Josh Arnett, j'étais content de le revoir. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il fait plus de films pour des raisons familiales. Enfin, il a dit qu'il s'est retiré un peu, pour voilà, des raisons perso. Mais c'est vrai que de le revoir, tu te dis, ah, bah, c'est quand même un acteur qui était plutôt chouette. Et il avait quand même. Si tu le mettais avec des bons réalisateurs et dans des bonnes dispositions, il pouvait vraiment sortir des belles prestations.
Alors, moi, Josh Arnett, très honnêtement, pour moi, c'était juste le beau gosse.
Je veux dire, 40 jours, 40 nuits.
Ça c'était plutôt fun. Je me souviens à la chute du Faucon Noir, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est finalement.
Oui, c'est ou le film, tu sais,
même
où il
The
part
Faculty,
en,
tu vois, c'était pas trop
où
mal.
Il part en revanche, là, Revenge Movie, là, contre les mecs qui ont tué son père, ou je sais plus trop quoi, là. Et il est un peu.
Josh Arnett.
Ouais.
Ah, je me souviens pas de ça.
Ah, ça vous dit rien, ça? Attends, il était chouette, ce truc.
Tu sais de quelle période?
2010.
Slevin.
Voilà,
Slevin.
Ouais, ouais. Ah oui, cette Slevin,
d'accord.
Avec
aussi
Bruce.
Ouais, Bruce Willis. Ouais, ouais.
Exact.
Tout à fait. Ouais.
Mais moi, en fait, Josh Arnett, j'ai toujours trouvé une espèce de poster boy, pas très intéressant, un peu fadasse. Et c'est avec la série Penny Dreadful que j'ai redécouvert.
Super. Bah oui.
Que j'aime beaucoup cette série. Et là, en fait, c'est vraiment le type, c'est que, bah, comme le bon vin, tu vois, lui, il est en pleine maturation, il a un physique maintenant. Avant, c'était un miné.
Comme DiCaprio, il a un peu eu le même. Enfin,
ouais, ça durait moins longtemps pour DiCaprio, voilà, c'est vrai. Mais Josh Arnett, très longtemps, il y avait juste ce physique un peu fadasse. Et je trouvais qu'il n'était pas très bon comédien parce qu'il n'exprime pas grand-chose. Maintenant, il a un physique. Il a plus un physique de mâle. Et là, ça le rend intéressant. Ouais. Là, dans Penny Dreadful, moi, je l'aimais beaucoup.
Ouais,
déjà,
super.
C'était une super série.
Ouais, puis il était bien entouré aussi. C'était vraiment pas. La première saison était folle. J'avais beaucoup, beaucoup aimé.
Ouais,
même à l'époque, me sortait pas encore parler trop
d'Eva Green.
Dedans, elle était vraiment. C'était une des premières séries horrifiques que je trouvais efficace. Il y avait eu quelques scènes, Possession notamment, et des trucs comme ça. Elle était un peu gory aussi. Il s'était fait un peu plaisir.
On y croit.
Ouais, c'était pas mal. Penny Dreadful, ouais, c'était pas mal.
Du coup, le film de Guy Ritchie nous permet, voilà, vous voyez. Il sert à quelque chose, il nous permet de nous rappeler de bons souvenirs.
Mais bien sûr. Mais Guy Ritchie nous apporte beaucoup de choses. En fait, Guy Ritchie, pour moi, c'est vrai, c'est le curseur. C'est entre quand sur un curseur, je dis qu'est-ce que c'est un bon et un mauvais film. Je prends toujours Guy Ritchie, je dis alors, sur l'échelle de Guy Ritchie, c'est un bon film ou c'est un mauvais film?
T'as raison.
Ouais, bah écoute. Ouais,
c'est non, mais Guy Ritchie, on en parlait tout à l'heure en off. Moi, je mets dans le même panier qu'un mec comme Robert Rodriguez. Tu vois, c'est. Pour moi, ce sont pas de bons réalisateurs. Ce sont des gars qui sont très influencés. Alors, bien sûr, on pense toujours à Tarantino. Quand tu vois un film de Rodriguez ou de Guy Ritchie, tu penses à Tarantino. Alors, d'autant plus avec Rodriguez, parce qu'on sait qu'ils étaient très proches, qu'ils ont collaboré ensemble, soit. Mais pour moi, ça a toujours été des sous, tu vois, des sous Tarantino.
Aucun vraiment aucun des films réalisés par Guy Ritchie ne trouve grâce.
J'ai aimé Une Nuit en Enfer, genre pour Rodriguez.
De Rodriguez, bah oui, Une Nuit en Enfer, c'était cool, mais bon, c'est un scénar de Tarantino. Même le premier... Franchement, vous avez revu Desperado récemment? Moi, Desperado, ouais, c'est un film quand j'étais ado que j'avais adoré. C'est compliqué à voir, hein, Desperado aujourd'hui. Hein. Mais vraiment, ouais, ça c'est très mal vieilli. Hein. Alors, il y a Salma Hayek qui est bien sûr, voilà, elle sauve le film, c'est l'effet spécial le plus important du film. Elle est incroyable, mais sinon, c'est vraiment très mauvais. Moi, Guy Ritchie, pour répondre à ta question, le seul film que j'avais bien aimé, c'était le premier Sherlock.
Le premier Sherlock.
Le premier Sherlock, j'ai trouvé ça divertissant. Pour une fois, je me suis dit, c'était. Mais très honnêtement, alors. J'allais dire, ça aurait pu être n'importe quel faiseur, mais effectivement, il utilise, voilà, c'est ralenti, c'est machin, c'est conneries. Mais au moins, c'était divertissant. Mais les autres.
Parce que quand moi, je regarde, tu vois, j'ai sa filmo devant les yeux, les films que j'ai vus. Alors après, faut les remettre. Moi, ça fait des années que je les ai pas revus. Peut-être qu'en les revoyant, ce serait moins impressionnant. Mais Arnaque, Crime Botanique et Snatch, à l'époque, je me rappelle, m'avaient énormément plu. Et tu vois, pour moi, ils sortaient un peu de ce que j'avais l'habitude de voir.
Oui, t'avais quel âge? T'avais quel âge?
Bah justement.
Parce que ce sont des films que j'ai vus quand j'avais 17-18 ans.
C'est le préambule que j'ai fait. Je les ai vus aussi.
Enfin, 17-18 ans, je sais même plus
quel âge. C'est ça, à peu près.
Ouais, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Quand j'ai
ado,
ça, c'était cool. Voilà. Aujourd'hui, quand t'es adulte, tu dis, ah non, putain, c'est débilo, c'est mal branlé, quoi. Le pire film que j'avais vu avec lui, c'est Revolver. Enfin, que j'ai pas vu jusqu'au bout, je suis allé le voir en salle. C'est avec Jason Statham et Ray Liotta.
Rock'n'Roller était pas.
Je ne l'ai même pas vu jusqu'au bout, le film. Généralement, moi, quand il y a un film qui me plaît pas, j'arrive à dormir. Là, c'était tellement mauvais que j'arrivais même pas à dormir.
T'es sorti de la salle?
Qu'est-ce qui. On m'appelle? Oui? Dites-moi.
Bah, moi, j'aimerais bien dire ce que j'en pense du film parce qu'on m'a pas demandé.
On t'a pas demandé ton avis.
Et puis avant, je parle pas.
T'as raison, on parle trop de
le film. Et ma vie, ma vie.
Pardon, Tom, mais j'étais sûr que t'avais. Oh, excuse-moi.
Ah non, j'ai juste parlé de l'Ukraine, c'est tout. C'est le truc que j'ai dit.
C'est vrai.
Alors, Tom, et toi?
Bah, moi, j'ai bien aimé.
Ah,
c'est pour ça qu'il disait rien.
C'est par toi. Oui, alors, vas-y. T'as 10 minutes.
Non, je sens que c'est par esprit de contradiction. C'est
non, mais moi, j'aime bien. Bah, après, il se trouve que moi, j'aime plutôt bien le cinéma de Guy Ritchie. Donc, après, je peux comprendre. Je pense que c'est des cinéastes, comme on a souvent parlé, comme Aronofsky, tout ça. Soit on aime, soit on n'aime pas. On est client, on n'est pas client. Moi, Guy Ritchie, je suis quand même plutôt client. Après, c'est un peu, voilà, c'est le cinéaste de la coolitude, les personnages en couleur, les personnages fun, les situations, le dosage entre l'humour et l'action. Que moi, c'est un truc que j'aime bien depuis ses premiers films. Après, je trouve qu'en effet, c'est vachement. Je trouve autant dans les premiers films des années 2000, on était vraiment dans cette veine ultra britannique qui était vraiment encore. Qui apportait énormément de charme et de causticité, qu'il a perdu par la suite, clairement. Même si je trouve que Gentleman, je trouve qu'il essaye d'y revenir. Et moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce film. Et moi, franchement, la plupart de ces films, moi je les aime bien. Je ne dis pas tous. J'ai une sainte horreur du roi Arthur, ça c'est clair et net. Je pense c'est une des pires séances de ma vie. Et celui-là, honnêtement, moi je l'ai trouvé sympa. C'est pas son meilleur, loin de là. Je le trouve assez classique. Et comme tu disais, c'est vraiment un sous-James Bond, c'est un sous-mission impossible. Et je trouve que le scénario est inutilement alambiqué. Je trouve que vraiment on veut faire hyper compliqué alors qu'en fait c'est hyper basique. Et que je trouve que les personnages, pour le coup, sont moins colorés et originaux que d'habitude. Tu vois, par exemple, le personnage de Statham, il essaye de lui créer une genre des tocs. Tu vois, il est stressé en avion, il peut boire que du vin rouge, hors de prix.
Le mec est devenu un agent secret, voilà, qui supporte rien.
Mais je trouve qu'il
a peur dans les endroits confinés.
Mais je trouve qu'ils en font, rien de ça, en fait. Je trouve que c'est super dommage, ils en font vraiment rien. Et en effet, finalement, ça se résume à du Statham qui fout des mandales et ça reste classique. Après, je trouve qu'il arrive quand même toujours à attirer des beaux castings. Et en effet, je trouve que le casting, il marche bien. Je trouve qu'Aubrey Plaza, moi, je trouve qu'elle marche super bien parce qu'on est vraiment sur l'anti-James Bond girl, tu vois. Elle a toujours ce côté hyper... t'as toujours l'impression qu'elle se fait chier.
Blasé.
Ouais, hyper blasé. Tu vois, elle a vraiment ce côté
sa première
humour,
côte, elle part de Golden Shower quand même.
Ouais, mais ça,
je fais plus.
Je la trouve trop drôle. En fait, je trouve que pour le coup, le duo avec Statham, je trouve qu'il marche vraiment bien. Et c'est vraiment une actrice qui est en train de monter, qu'on voit de plus en plus, tu vois. Et donc, je suis assez fan. Et Hugh Grant, pareil, je trouve qu'il, ouais, je suis assez d'accord, il s'éclate bien dans le film. Donc, après, voilà, même si c'est pas un très bon Guy Ritchie, moi, franchement, je vais pas dire non plus que j'ai détesté et que j'ai passé un mauvais moment. Ça reste quand même hyper divertissant.
Voilà. Je pense qu'on va rester là-dessus.
Ouais, merci, Thomas.
Parce que sur une note positive. Ouais. Merci Tom. C'est vrai qu'on a eu tort de ne pas te donner la parole tout de suite parce que ça a relevé au moins la discussion. Et tu as raison. Maintenant, j'ai revu mon jugement. C'est un excellent film. Merci Guy Ritchie. Je ne sais pas si Mike va nous rejoindre parce que Mike, il va débattre avec moi et vous allez tous débattre avec nous sur Evil Dead Rise que nous avons vu ensemble en salle, Mike et moi. Donc c'est le retour de la franchise.
Je suis impatient de vous entendre.
Evil Dead.
Alors moi, c'était mon premier.
Ton premier Evil Dead.
Alors j'ai demandé en arrivant dans la salle à Mathieu, est-ce que je serais pénalisé de ne pas avoir vu les autres.
Les autres,
il m'a dit non. Je suis d'accord.
Non. Comme c'est un reboot tout complet.
Non non non. En fait,
ça a été rebooté il n'y a pas très longtemps. Il me semble. Est-ce qu'on en a parlé de celui-là ou pas?
Non, c'est en 2013. Alors si vous voulez, je prends la genèse. Donc Evil Dead, Sam Raimi, le film sort entre 81 et 82, il est présenté à différents festivals, ça va exploser. C'est vraiment le film qui est fait entre copains, avec pas beaucoup de sous, mais qui est hyper ingénieux, qui est très gore, il y a un côté un peu slapstick. Ce côté slapstick va surtout être mis en scène à partir du 2, donc avec un personnage, le personnage de Ash, qui est interprété par Bruce Campbell. C'est devenu des classiques, hein, les trois, hein, t'as le troisième qui est l'Armée des Ténèbres. Ces films-là ont vraiment marqué la pop culture et le cinéma d'horreur gore des années 80, puisque avec suite à ça, t'as plein de films gore qui vont sortir. Je pense à des films comme Reanimator, les Brain Dead. Le film de Sam Raimi, le premier Evil Dead, c'est vraiment un marqueur hyper important. En 2013, il y a Fede Alvarez qui va en faire un remake. Mais le remake, en fait, il a été plus qu'autorisé, il a été soutenu par Sam Raimi. Hein. Mais il a fait un remake du premier, mais vraiment premier degré, extrêmement gore. Moi, je me souviens à l'époque, quand le film est sorti, sur Fede Alvarez, beaucoup de gens étaient déçus et ont crié « Arrows » contre le film parce qu'on ne touche pas à la saga Evil Dead. Moi, je trouve que c'est un très bon remake parce qu'il a été suffisamment malin pour dire « Voilà, je prends le film et, au premier degré. » Et il est, encore aujourd'hui, je trouve très saisissant, très très gore. Le film que nous avons vu avec Mike, qui est réalisé par Lee Cronin, qui je crois qu'est un jeune réalisateur britannique, il prend le parti, quand le film débute, de commencer tout de même dans une maison au fond des bois, comme dans toutes les sagas de David Dead, parce que c'est toujours la forêt qui est hantée. On expliquera aussi, bien sûr, un élément qui est hyper important, c'est le Livre des Morts, le Necronomicon, qui est une sous-influence de Lovecraft, qui fait venir ce qu'on appelle chez les amateurs d'Evil Dead, c'est les Deadies. Et du coup, l'intérêt de ce film-là, c'est un peu comme le Dead Scream, c'est de prendre cette histoire-là et la transposer à Los Angeles. On est dans un mode plus citadin et moins dans la forêt. Sauf que ça se passe jamais véritablement dans la ville, puisque ça reste circonscrit
dans un
huis clos, dans un
appartement. Étage.
Voilà. Pour moi,
on n'est pas dans une cabane, on est dans un appart.
Ouais, mais tu comprends pourquoi on a commencé par à la fin du film, tu comprends pourquoi
oui,
on a commencé.
Sauf que
tu
avais complètement oublié.
Oui, exactement.
Complètement. Ouais. Alors, je donne rapidement mon avis, après on va développer. C'est un mauvais film. Pour moi, c'est vraiment un mauvais film et j'en attendais beaucoup. Hein, parce que moi, comme je disais, je suis fan de Evil Dead et j'avais déjà beaucoup aimé le remake il y a une dizaine d'années. Donc, j'y vais vraiment j'y vais content. J'ai hâte de voir ça. En plus, le cinéaste que je ne connaissais pas a été choisi par Sam Raimi. C'est pas un mec à qui on a donné les clés du camion comme ça. Il y a Sam Raimi qui dit voilà, je te fais confiance, fonce gamin, au vu de ce qu'il avait fait comme film précédemment. Pour moi, c'est une catastrophe, je développerai après pourquoi. Mm-hmm. Je voudrais juste avoir l'avis de Mike.
Ouais, alors moi, les films d'horreur, c'est pas forcément ma came, mais là, c'était pour moi un bon moment de divertissement. J'attendais des scare jump.
Jump scare.
Des jump scare, j'arrive jamais à le dire. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas eu. Je n'ai pas sursauté.
Non,
voilà.
Ouais, ça va. Il y en a quelques-uns, mais
c'est gore.
C'est très gore. Enfin, en tout cas, mon niveau, hein, qui n'est pas forcément la culture horrifique, on dit. Ouais.
Oui.
J'ai trouvé ça assez gore. Plein de sang partout. Et très, 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 mais alors très, très, très bruyant. Hein, on en a. Trop bruyant. Il y a du
pourtant,
son partout.
C'est pas Zimmer qui a fait la musique.
Non, mais il y a du son partout dès le départ. C'est fou, tu te dis, ça va être
ouais,
long.
C'est une vraie cacophonie en fait.
Ça va être long, il y a du bruit tout le temps. Et ça, franchement, ça, parfois ça m'a sorti du film. Mais bon, l'histoire est, est bon, somme toute classique. Une mère de famille qui est célibataire, enfin qui a été quittée par son mari, qui se retrouve avec ses gosses. Il y a la sœur qui débarque. La sœur essaie de sauver cette famille qui est prise par des forces démoniaques. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup aimé les décors, j'ai beaucoup aimé ce jeu en huis clos, j'ai trouvé dans l'appartement, l'étage et puis l'ascenseur, c'est juste trois, et peut-être aussi le sous-sol, c'est juste trois ou quatre lieux où tu retrouves les protagonistes du film. Mais moi j'ai passé un bon moment. Après, j'ai pas forcément, j'en attendais pas tant que ça. Moi, je suis arrivé vierge de toute connaissance à ce niveau-là. Donc j'ai bien aimé mon moment. C'était pas trop long. Il faisait froid dans la salle, mais c'était pas trop long. il faut faire attention là. Enfin, il faut leur dire d'augmenter peut-être d'un degré, peut-être le chauffage dans les salles, parce que là, c'est quand même un peu. ça fera partie d'un coup de gueule d'une autre émission. Bah, certainement.
Dans le grand, vous étiez.
Non, dans une salle 13, 14, oui, là, au rez-de-chaussée.
Bon, là, les gens ne savent pas forcément de quoi on parle, mais c'est une petite salle, dans un multiplex à Strasbourg.
Voilà.
Mais il y a un lien avec l'épisode il y a 10 ans.
Non,
que moi aussi j'aime énormément, parce que je trouve que c'est un film très généreux,
oui,
très gore, mais qui faisait complètement, qui repromenait complètement la mythologie et qui la revisitait mais sans la dénaturer. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce moment de bisserie. Et du coup, je me demandais s'il y avait un lien ou pas.
Non, il n'y a pas de lien. Et je vais dérouler juste pendant 5 minutes pour expliquer pourquoi j'aime pas. N'hésitez pas à m'interrompre au cas où. Le film débute par, je ne sais pas si vous savez, mais vous savez sûrement si vous avez vu les Evil Dead, l'un des traits de marque, c'est l'utilisation de la caméra subjective, qui, de par ses mouvements très rapides, donne ce sentiment qu'une force démoniaque est en train d'avancer vers nous. Donc le film débute par ça. Donc on est au bord d'un lac.
C'est du déjà vu, du déjà pratiqué mille fois.
Oui, mais ça peut importe. Non, mais ça peut être un clin d'œil. Après, oui. Ça a déjà été vu avant Evil Dead.
Non, mais c'était un bout. Tu vois, enfin.
Non, si tu veux, je finis juste. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette utilisation de la caméra subjective, qui est censée, si toi tu es initié au film, représenter effectivement cette menace démoniaque qui vient vers toi, finalement. On va comprendre, après coup, comme tu l'as dit, c'est une espèce de jumpscare à ce moment-là, ouais. C'est un drone.
Ouais, voilà. C'est ça.
C'est un drone. Donc, finalement, c'est pour avoir une espèce de trait d'humour, ou un clin d'œil complice, vous attendez à ça, mais il n'y a pas ça. Sauf que cette séquence-là, pour moi, elle détermine déjà tout le film. Evil Dead, ceux de Sam Raimi, il y a, comme je disais, un côté slapstick, un côté très Tex Avery, très rigolo dans le côté gore. Le film de Fede Alvarez, volontairement, on fait le choix d'être au premier degré. Ce film-là, quand il présente ça, il ne sait pas encore où s'inscrire. Parce que en faisant cette scène, un peu clin d'œil, un peu drôle, en disant « vous vous attendez à cet élément démoniaque, en fait c'est juste un drone parce que c'est un gars qui veut faire peur à une meuf », il y a une surprise qui est un peu cynique. Mais tu dis « soit, c'est pas grave, c'est le film qui commence, donc est-ce que ça va donner le ton du film ?» Pas forcément, je ne le sais pas encore. Mais le ton du film, en fait, il n'y aura jamais vraiment de ton, parce qu'il ne saura pas où se placer. Il n'y a pas forcément d'éléments comiques après qui vont venir dans le film. Mais les éléments gore dont tu parlais tout à l'heure, finalement, on les suppose effectivement extrêmement gore. Mais pour moi, il y a un souci par rapport au film de Fede Alvarez, c'est l'utilisation de la lumière. Le film est très très sombre. Quand tu fais un film gore je ne parle pas d'un film d'épouvante, un film gore et que la lumière est extrêmement limitée et très très sombre, c'est souvent un cache-misère. Ça crée pas une ambiance. Si tu ne vois pas les effets, c'est la différence du film Fede Alvarez où les effets sont.
Alors si tu veux faire du gore, faut le montrer, quoi.
Bah c'est ça. C'est les effets
gore. Waouh, quelle voix.
Ouais, je suis désolé, j'ai rien.
Waouh.
Par contre, dans la gorge.
C'était très sexy, moi.
C'était bien.
Par contre, le film, là où au début, il y a juste une séquence qui m'a bien plu, que je trouve plutôt classe, c'est donc une des nénettes qui est possédée. Elle sort du lac. Tu vois, elle est en lévitation, ah oui. Il y a le titre qui apparaît.
Derrière, ouais.
Ça, c'est plutôt pas mal. Je veux dire, c'est visuellement.
Et qui se reflète dans le lac en plus.
C'est ça, visuellement, ça claque. Ouais, ça, faut dire, ça, c'est plutôt chouette. Mais après coup, ouais, sans déconner. L'autre choix, en fait, il y a ce choix thématique de transposer l'histoire dans une ville qu'on ne verra finalement jamais. Donc, comme on disait, c'est quand même limité à un appartement. Il y a aussi ce choix de ne pas prendre H comme il y a 10 ans dans le film Fede Alvarez, et de prendre uniquement des personnages féminins. Le personnage masculin qui va intervenir, qu'on pourrait supposer comme étant un personnage fort, il est musculeux, en plus il fait une prière, donc il prie, donc on se dit, ah, c'est lui qui éventuellement, de par ses prières, va pouvoir le contrecarrer les interventions démoniaques, mais il va mourir très rapidement. Parce qu'en fait, il y a ce parti qu'on peut trouver plutôt louable, de dire, non, les personnages forts sont des personnages féminins. Donc là, côté un peu féministe, c'est bien, ça change. Sauf que le film est effectivement très réactionnaire, parce qu'il y a un truc qu'on oublie. La jeune fille, Beth, je ne sais pas si tu viens, mec, elle est enceinte.
La tante, oui.
La tante, avant de venir. La tante, pour le dire vite, elle est, de manière caricaturale, on dit qu'elle c'est une groupie, mais en fait, elle suit les groupes de rock pour les installations techniques, machin et tout. Et tout. Elle fait un test de grossesse, elle est aux toilettes, et elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle n'a pas l'air très contente
non.
de cette situation-là. Voilà, ça, il y a cet élément-là au début du scénario. Et après, on l'oublie. Et à la fin du film, on nous fait comprendre que. Avec un dialogue avec une des filles, des nièces qui va survivre.
Ce qu'elle a vécu, lui va lui c'est l'épiphanie, c'est-à-dire qu'elle va enfin vouloir
accepter d'être
mère et vouloir garder cet enfant.
Donc pour accepter d'être mère, il faut trucider la sœur, il faut trucider d'autres enfants.
Les deux neveux,
il faut trucider tout le monde. Ça,
pour sauver une petite.
Il n'y a pas de vocation à être une mère, il y a vocation à faire des années de psychanalyse.
Ah, c'est ça.
Et en plus de ça, à un moment donné, il y a quand même la petite fille, d'ailleurs sa sœur qui est possédée, qui lui dit tu as deux âmes, il y a deux âmes à manger, elle et puis l'enfant. Pour l'instant, c'est un embryon.
Ah ouais.
Donc tu vois, c'est pas encore un enfant. Donc il y a encore tout ça en fait qui est très réactionnaire, se disant voilà, tu es limité quand même à ta condition de maman pour exister en tant que personnage fort. Donc tout ça, il y a un peu idiot. Et sans compter, comme dit, pour moi, si je vais voir Evil Dead, je vais voir des séquences effectivement gore et je vais voir des trucs un petit peu qui m'impressionnent. Le film est tourné en anamorphique. Alors du coup, on compresse, c'est l'image. Un peu comme quand on utilise les cinémascopes. Il y a juste une bonne idée, c'est qu'à un moment donné, il voit une séquence, je ne sais pas si tu viens, à travers l'œilleton, à travers le Judas, où là, tout d'un coup, il change le ratio de l'image pour lui donner une espèce de verticalité. Ça donne beaucoup de souffle, je trouve, à l'image. Et comme ça, tu vois, comme si ça se passait en hors-champ, mais à travers l'œilleton, tu vois certaines situations. Ça, c'est plutôt bien pensé. Mais sinon, autrement, l'utilisation anamorphique et l'utilisation de la photo fait que tu ne comprends rien. Toi, tu te dis les décors sont bien, t'ont plu. Et certaines fois, effectivement, tu les sens, tu dis ouais, putain, c'est pas mal. Mais en règle générale, tu vois pas tout. Ouais. En plus, t'as le sentiment qu'ils ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait beaucoup de détails dans les décors. Mais sauf que tu perçois pas tout. Des fois, t'arrives pas à comprendre ce qui se passe. T'as pas une bonne lecture, tu vois. Parce que c'est tellement sombre.
J'ai trouvé aussi beaucoup de facilité dans le jeune homme qui est DJ. Il est DJ parce qu'il est il doit être amené
à utiliser un vinyle.
Voilà, donc le gosse, il est DJ. Et donc il y a un tremblement de terre. Bon, bref, il trouve un truc. Et il y a des vinyles. Il récupère les vinyles qu'il décide d'écouter. Mais en fait, pour savoir ce qui est dit sur le vinyle. Il doit le remonter avec le doigt en arrière comme ça, tu vois.
Parce que bon, c'est vrai qu'actuellement, des ados de 14 ans qui ont un lecteur vinyle, il n'y en a pas des masses.
Voilà, c'est
donc
ça.
Lui, comme il est DJ, tu te dis,
bon, il arrive à. Il a trouvé la solution tout de suite, mais il a trouvé la solution tout de suite parce qu'il est DJ.
Avant, il fait du scratch.
Avant, il faisait du scratch
sur vinyle. Donc
tu vois, je trouve qu'il y a des.
Enfin, t'as pas besoin d'être DJ pour savoir que dans l'occultisme, il faut lire les disques à l'envers.
Oui, mais non. c'est un gamin, il n'a rien à voir avec l'occultisme, lui, tu vois.
Alors, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec l'occultisme. C'est vraiment le truc, c'est des années 70 que les. Enfin.
Quand tu lis les bandes à l'envers, ouais, c'est là que tu entends un message normalement.
Oui,
mais tu
sais
pas.
C'est subliminal et c'est censé être démoniaque. Enfin, c'est comme ça que tu peux l'avoir, c'est souvent un truc utilisé.
Oui, mais tu sais d'où ça vient, ça?
Non.
Non. Je peux faire une parenthèse vite fait?
Bien sûr.
Bien sûr. Dans les années 80, il y a eu une explosion, on a beaucoup parlé déjà, du cinéma gore, du heavy metal, des jeux de rôle type Donjons et Dragons, tous ces trucs-là où les Américains et des commissions américaines, souvent aidées par des associations féminines de mamans et aussi Cato, qui ont dit « voilà, notre jeunesse est en perdition, ils sont en train d'écouter de la musique sataniste, ils écoutent ce genre de choses ». Et ils sont revenus en disant, vous vous souvenez, à l'époque de Charles Manson, il a revendiqué les meurtres en écoutant Take Shelter des Beatles à l'envers. Tu vois, le Take Shelter. C'est pas Take Shelter, c'est Shelter, quelque chose. Il faut me retrouver juste le titre si quelqu'un a l'occasion. Et si tu le passais à l'envers, c'était une incitation à commettre des crimes. Et la plupart des maisons de disques, dans les années 80, ont sollicité d'eux-mêmes les associations pour dire, vous avez écouté le morceau là ? Vous avez écouté le morceau ?
Helter Skelter.
Et les maisons de disques disaient, vous avez entendu le morceau qui vient de sortir ? Sur ce morceau, si vous le passez à l'envers, il y a des incantations, des trucs comme ça. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que ces associations faisaient tellement de bruit que ça faisait de la pub au groupe et qu'ils vendaient plus d'albums comme ça. Et c'est comme ça qu'est venu, je ne sais pas, vous vous souvenez tous de ça, Parental Advisory Explicit Lyrics.
Non.
Vous ne souvenez pas de ce truc-là ? Sur tous les albums, il y avait écrit ce cache noir, noir et blanc, Parental Advisory, voilà.
Advisory.
Parental Advisory Explicit Lyrics. Et ce truc, c'est venu de ça. La commission à l'époque, c'était Madame Gore, la femme du... l'homme qui aurait pu être futur président de Al Gore, qui faisait partie de cette commission-là, ils ont mis ce système en place de censure. Sauf que le côté pervers et bénéfique pour les groupes, c'est que les gamins, moi je me souviens, j'en faisais partie quand j'écoutais du metal quand j'étais gosse, j'ai acheté les albums seulement quand ils avaient ce logo. Parce que c'était un gage de qualité quand t'étais gosse, tu vois.
C'est ça.
Donc c'était le côté pervers de la chose. Et c'est là, effectivement, c'est pour ça, Evil Dead, pour en venir là-dessus, ils participent. Parce que déjà dans les années 80, tu sais, avec ces bandes, effectivement, tu passes les trucs à l'envers, ce sont des incantations.
D'accord.
Le Necronomicon, Lovecraft, toute cette littérature fantastique, horreur, participe effectivement, tu vois, à, dans les années 80, ce qu'on disait, à la perversion de cette jeunesse-là. Et le gamin reproduit ça. Et là où c'est intéressant, c'est toi, t'as raison, le gamin, au-delà du fait qu'il fasse du scratch, il faisait pas de scratch. Comment il aurait su ça ? Parce que nous, on sait ça, parce qu'on est des enfants des années 80-90.
Et lui, pas.
Mais ces gamins-là, déjà avoir un lecteur, une platine pour écouter du vinyle et puis savoir ce genre de choses, ça tombait bien.
Ben oui, ça tombe bien. Ouais,
ça tombe bien.
Oui, ben, mais les mecs ont dû réfléchir en se disant bon, ben, comment est-ce qu'on peut avoir un personnage qui peut en arriver là. Et on se dit bon, ben voilà, on va faire ça.
Oui, oui, non, bien sûr, c'est
si
parti pris.
Hein. Pokémon, et ben, voilà, ça sert à rien.
Après
c'est parti pris, mais...
les facilités scénaristiques de ce genre de film, moi, à rigueur, très souvent, je m'assois dessus, je m'empête. Ouais. Ce que je veux voir, le propre même du cinéma d'horreur, et qui plus est dans les années 80, c'est d'être ingénieux. Et de te proposer, en fait, tu vois, de te faire des propositions de mise en scène. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. Mmh. Et les effets, comme dit, ils sont, à mon sens, ils sont très peu visibles. À la fin, ce qui est un peu rigolo, c'est qu'il y a un côté très grand guignol, effectivement, avec une espèce de comment on appelle, d'hybridation monstrueuse entre différents protagonistes. C'est un plus rigolo, effectivement, que c'est gore, mais c'est assez réjouissant. Il y a plein de clins d'œil. Il y a un clin d'œil à Evil Dead 2, il y a un clin d'œil à Shining, il y a plein de clins d'œil. En fait, t'as l'impression que le mec, c'est un fanboy. Mmh. Donc c'est plutôt cool, tu vois, c'est plutôt sympa. Mmh. Mais moi, j'étais plus que déçu.
Ouais. Mais ok, moi non, j'ai passé un bon moment. Et puis la seule question que j'ai posée à Mathieu en sortant, c'est j'ai eu vraiment de la peine pour cette petite fille qui jouait ce rôle-là. Je me suis dit, mais comment tu ressors de ça Et comment les parents peuvent autoriser son enfant, leur enfant plutôt, à jouer ce genre de film-là. Et en fait, il m'a expliqué effectivement qu'il avait lu une interview du réalisateur qui expliquait comment il avait...
traumatisé.
Voilà, c'est ça. Comment il va lui payer à vie des séances de psychologue. Mais mais comment il avait, comment il fait, ils font généralement pour intégrer un enfant dans ce genre de film-là.
Ils essayent pas de les sortir du contexte au maximum, non ?
Il faut qu'ils jouent. Ouais, il faut que ce soit extrêmement ludique. Et comme on disait, donc les parents doivent être là constamment pour accompagner les gosses. Ils disaient, c'est comme ils se déguisaient comme pour Halloween. Et par exemple, quand il y avait des fois des geysers de sang à faire exploser, c'est la gamine qui appuie sur le bouton. Tu vois, c'était ça, parce qu'il faut que ce soit ludique, il faut qu'elle participe à tout, et que tout ça soit une farce. On le voit très bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu des making-of de films d'horreur, généralement, on se marre, quoi. On se marre plus que dans un film de Desplechin ou de Téchiné. Mais c'est vraiment, c'est le côté rigolo, tu vois. Et pour les gosses, c'est ça, c'est fun.
Bah c'est quand même assez hallucinant.
Bref. Tonton, il va vomir du verre, regarde. Appuie sur le bouton. Là.
Non, mais moi je conseille aux gens d'aller voir ce film s'ils ont envie de divertir.
S'ils ont envie de le voir.
Et il faut venir avec des bouchons d'oreilles.
Ouais, par contre.
Ouais, là, ça faut arrêter tout ça.
Faut régler ce mécanisme.
Laisse tomber. Bon, merci Mathieu pour ce.
Merci
ce,
à toi, mec.
Merci à nous. Merci à nous d'exister. On va passer à la troisième rubrique de cette émission. Les cœur. Et qui veut commencer ? Et qui veut commencer? Moi, je lève la main.
Ah, ouais, tu as un coup de cœur?
Ouais, j'en ai un. Hormis vous, mes poulets, c'est Super Mario au cinéma, le film d'animation. Je suis allé, non, franchement, ouais. Moi qui suis pas, je sais pas qui l'a vu ici. Moi. Voilà. Franchement.
Donc toi et Léonore,
vous êtes d'accord? Je suis allé le, je suis pas moi fan des jeux vidéo à la base. Tout le monde, enfin c'est de ma génération. Mario, on a tous joué à Mario sur la 64, etc., etc.
Est-ce que juste une question, tu l'as vu en VF ou en VO?
En VF.
En VF.
Ouais.
Il paraît que la VF est bonne.
Bah, il paraît que la VF est meilleure que la VO.
Ouais, la
VF. En fait, c'était tout le truc, même aux États-Unis. Je crois que quand ils avaient les premiers retours, parce qu'il y a toute une polémique sur Chris Pratt qui double, comme quoi c'est terrible, que même aux États-Unis, les fans ont regardé la bande-annonce en français.
En français.
Ils ont envie notre VF, ouais, tout à fait.
Mais okay. Oui, en VF, parce que j'étais avec des enfants, hein, avec Laura et ses enfants. Et voilà, donc moi, j'avais pas la ref. Je suis pas fan de Mario parce que j'ai pas joué dans mon enfance aux jeux vidéo. Mais j'ai toutes les références, hein, Bowser, l'autre, Peach, Luigi,
Sonic,
Toad, tout ça.
Et Zelda.
Sonic et Zelda. J'ai toutes les refs et j'arrive à les mettre ensemble. Et franchement, je suis allé.
Sonic et Zelda.
Et je suis allé voir ce film-là et j'ai beaucoup ri. Et franchement, c'est un très très bon film, même pas que pour les enfants. Pour les adultes aussi, vous passez un très bon moment. Donc moi, je conseille d'aller le voir. Il y a de l'humour et puis il y a les références culturelles de Mario. Enfin voilà, c'est vraiment 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 chouette. Je sais pas ce que Éléonore en pense, mais elle est parmi nous, Éléonore.
Elle est un petit peu
elle
loin,
un petit peu loin, mais elle peut revenir. Non, elle veut pas revenir.
Non, elle veut pas revenir. Elle est occupée.
Elle ne vous aime pas, les auditeurs.
C'est un énorme succès. Hein.
Oui, ouais, c'est un énorme succès.
Il va taper le milliard. Hein, ça,
ouais,
c'est
ouais,
sûr.
Ouais. Ouais. Donc, mais en tout cas, ça le mérite parce que franchement, ils ont fait du bon taf.
Ouais, là, en France, il se fin de vie pour le moment, il est estimé entre 6 et 7 millions. Et, c'est énorme. Mmh. Aux États-Unis, là, il est en train de courir après les scores de la Reine des Neiges 2. Meilleur score pour une
meilleur départ, hein, c'est
meilleur
ça,
démarrage, meilleur score pour une adaptation de jeu vidéo. Donc c'est vraiment, enfin, on attendait le film haut parce qu'il y avait une grosse hype les bandes annonces, sur la com et tout ça, mais on l'attendait pas aussi haut. Et surtout, de semaine en semaine, le film perd très très peu. Donc
le bouche à oreille
fonctionne très très bien. Ouais.
Bon, bah, très bien.
C'est vraiment, vraiment bien fait. T'as tous les éléments du jeu vidéo dedans et tu t'éclates.
C'est vrai ça parle à tout le monde en fait.
C'est super malin parce que les quadras, les quinquas, ils vont aller le voir.
Ils emmènent leurs enfants.
Et puis après, ils vont emmener leurs gosses quoi.
Donc, parce que les enfants jouent à Mario encore parce que Mario, c'est intemporel. Tout le monde joue encore à Mario.
En regardant la bande-annonce, je m'étais dit effectivement, il y a beaucoup de codes du jeu qui ont l'air d'être respectés.
Ah oui, oui.
Il y a beaucoup de choses qui reviennent. On prend beaucoup, beaucoup d'éléments et comme tu dis, ouais, les quadras.
Mais t'y vas pour les enfants et tu penses leur faire plaisir, mais tu te fais plaisir à toi.
Oui,
en y allant,
mais
en fait.
Tout fonctionne, quoi. C'est-à-dire, les parents sont contents d'y aller, et du coup, t'as même pas besoin d'avoir les gosses qui te demandent de le faire pour les emmener, quoi. Au final, c'est eux qui ont envie de le faire. Ah ouais. Et les enfants, même s'ils ont pas toutes ces références-là, ils passent quand même un bon moment parce qu'il y a toujours plusieurs degrés de lecture. Quoi.
Mais en fait, Mario, c'est vraiment un personnage qui est complètement ancré dans la pop culture, tu vois. Et même si t'es pas du tout, et c'est mon cas, un fan de jeux vidéo. Donc, par exemple, si il y a les adaptations, moi, je vois les films, je sais pas, je vais dire Uncharted, par exemple. Moi, j'ai jamais joué au jeu, je connais rien au jeu du tout, tu vois. Mais Super Mario, que t'aimes ou pas, que tu joues ou pas, mais tout le monde connaît Mario. Et tout le monde y a déjà joué au moins une fois, quand tu étais gamin, avec à un anniversaire, tu joues à Super Mario Kart, j'en sais rien. Tout le monde a déjà joué, tout le monde connaît, ça parle à tout le monde.
Voilà, voilà. Donc profitez-en, hein, il va être encore un sacré bout de temps en salle, donc voilà, vous aurez encore le temps d'aller le voir. Mais
dans le même genre, bon, c'est pas mon coup de cœur, mais dans le même genre, moi je suis allé voir Donjons et Dragons, bah, c'était super sympa aussi.
Ah ouais, ouais.
Bah, tu viens de me niquer mon coup de cœur.
Ah pardon.
C'était mon coup de cœur.
Ah bah vas-y, enchaîne, et bah vas-y, Tom.
Ouais, bah, je suis aussi allé voir Donjons et Dragons, à la base, alors c'est pas du tout mon délire. En fait, j'ai suivi un groupe de copains qui voulaient aller le voir, je me suis dit, allez... Je viens avec vous, les critiques étaient plutôt bonnes, donc je me suis dit ça peut être sympa. Et honnêtement, j'ai passé plutôt un bon moment. Franchement, même un très bon moment. Je trouve que ça sacralise tout ce que les blockbusters aujourd'hui ne sont plus, quasiment plus. C'est-à-dire que j'aimerais voir tellement plus de films comme celui-là, en tout cas de films type blockbuster, et là ça me réconcilierait peut-être avec les blockbusters que je n'aime pas beaucoup en général, parce que je trouve que c'est un film hyper rythmé, C'est-à-dire que ça dure 2h15, mais tu vois pas le temps passer. C'est un film hyper généreux. Vraiment, c'est, tu passes de niveau en niveau, de monde en monde, avec plein de personnages différents. Il y a toute une féerie. T'as un côté très, voilà, Seigneur des Anneaux aussi. C'est un film hyper fun. Souvent, on critique les Marvel avec un humour très automatique, très facile. Ouais. Là, franchement, tu te marres bien.
Parce que dans le trailer, il y avait à la fin du trailer, il y avait une touche d'humour, tu sais, où il y avait un pont qui devait pas s'écrouler, il devait pas toucher à quelque chose.
Oui,
et
oui,
le pont,
oui,
c'est... Et en fait, ça, j'ai trouvé... Ouais, c'est super drôle, mais ça me rappelait effectivement l'humour des Marvel, où l'humour était obligatoirement là.
C'est mieux. T'as un dragon obèse qui est trop rigolo, qui roule. Il peut pas voler, il peut pas. Il roule, il est tellement gros. Et en fait, pour pas spoiler, t'as Michel Rodriguez qui va retrouver son grand amour. Et en fait, c'est complètement irréel parce qu'ils vont pas du tout ensemble, en fait.
Et c'est un petit caméo qu'on
un
va pas dévoiler.
Rigolo, qui est sympa. Ouais, et après, voilà, et le personnage même. Tu vois, Chris Pine, moi, je suis pas du tout un fan de Chris Pine. Je le trouve assez fade en général. Je trouve que même lui, il se défend plutôt bien. Et c'est ce personnage qui veut tout le temps échafauder des plans, plan A, plan B, plan C, mais qui foire tout le temps. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un anti-Avengers. Parce qu'à la fin, tu vas avoir cette scène un peu classique que tu avais dans Avengers, où tu as tout le groupe qui est ensemble sur le méchant pour essayer de le détruire. Mais en fait, là ça marche. Il y a une vraie féerie, il y a une vraie drôlerie. C'est un super cocktail. Tu passes vraiment un bon moment, que tu connaisses ou pas le jeu.
Ouais,
parce que moi, clairement, je ne connais pas. Enfin, moi, je n'ai jamais joué.
Ah, ma question, c'est est-ce que tu avais des gens autour de toi qui avaient
pas
déjà
du tout.
Fait du... Non, personne
à part, moi, je connaissais de réputation, mais moi je connais personne autour de moi qui fait des jeux de ce type là, donc moi je connaissais rien.
Et apparemment les références sont très respectées d'après les retours
de ce
qu'on a eu
de
joueurs.
Les joueurs
disent que c'est très très proche, ils retrouvent beaucoup de personnages et de situations. Ouais.
Ça, sans doute parce qu'en effet t'as plein de noms de communautés, de personnages, voilà, que mais ça te perd pas si tu n'y joues pas. Tu vois.
Et qu'est-ce que je veux dire ? C'est pour toi, c'est plus une comédie ou un film d'aventure avec un peu d'humour ?
Bah, c'est un film d'aventure avec de l'humour.
D'accord.
Ça, voilà. C'est comme Indiana Jones.
Ouais, c'est
d'accord,
ça.
Okay.
pour moi, c'est le Saint Graal.
Comme il vend son truc.
Ouais, c'est ça. Ça revient vers un film un peu plus à l'ancienne, je trouve. Ce côté un peu, je sais pas, ce côté Indiana Jones, ce côté Goonies, j'en sais rien. Mais vraiment, tu as lu l'aventure, d'accord, avec la drôlerie et des personnages hyper bien caractérisés. Vraiment. Et après, le film marche plutôt correct, mais a coûté très très cher. Donc, je sais pas s'il y aura une suite, parce que clairement, c'est ouvert à ça. Mais en tout cas, les retours sont très très bons et c'est vraiment un film qui vous réconciliera avec les blockbusters. Et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça.
Oh, et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que t'as pas juste une ébauche de CGI, tu en as évidemment, mais t'as des animatroniques, t'as du maquillage, t'as des trucs en dur qui sont faits sur plateau, et ça, tu le sens.
Ça aide l'immersion.
Ah ouais, c'est de suite très organique. Et sur l'humour, il a raison. Putain, moi, Chris Pine, je suis pas fan du tout, il est très très bien. Michelle Rodriguez, elle est géniale.
Elle est
parce que
bien.
Moi, Michelle Rodriguez, ça fait longtemps que j'ai un peu lâché l'affaire parce que c'est toujours un peu la même chose. Elle fait toujours un peu la même chose. Et là, elle est badass, mais en même temps, elle est super drôle, elle est hyper attachante, elle est vraiment formidable.
Je pense que IRL, dans la vraie vie, elle nous pète tous la gueule.
Ah mais c'est sûr. oui, c'est sûr.
Elle t'attrape, elle te chiffonne.
Mais c'est vraiment drôle. Il y a une super scène où ils interrogent des cadavres.
J'allais dire, c'est génial.
Cette scène, elle est trop drôle.
On en voit un bout dans la bande-annonce, mais elle est beaucoup plus longue. Ils étirent ça en longueur et c'est super drôle. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, ils ont 5 questions à poser à un cadavre.
Et puis à chaque fois, est-ce qu'il veut pas poser une question et ça pose une question ?
Non, ouais. Et franchement... La force du truc, c'est qu'ils tirent la chose en longueur avec d'autres cadavres, mais c'est pas redondant.
Ce qui est génial, c'est que quand vous faites du D&D, donc le principe, c'est effectivement qu'on a des joueurs autour d'une table, ont chacun un personnage et avec des caractéristiques, et tu as le maître des jeux qui, lui, a un scénario prévu et qui donc va te faire avancer dans ton histoire. Et l'idée, c'est de lui poser des questions aussi, des fois. Donc, en fonction de ce que tu vas lui demander et de ce que tu vas faire, de ce que lui il a prévu, il va se passer certaines choses. Et tu peux te retrouver dans ce genre de situation où il va te dire t'as tant de questions à poser, t'en poses, il dit c'est bon, t'es trop tard. T'as posé tes questions, démerde-toi, avance, et tu peux perdre ton personnage. Enfin, si tu joues réglementairement, enfin, jamais, quoi. C'est-à-dire, un personnage, ça fait des heures que tu joues avec. Si là, t'as pas posé les bonnes questions et que tu sais pas, bah, le pont, il va s'écrouler. Ouais. Et tu vas crever.
Et je trouve que tous les personnages, ils sont vraiment hyper bien caractérisés. Que ce soit les premiers rôles, les seconds rôles, on retrouve notamment Hugh Grant qui est pour le coup, on voit qu'il s'éclate comme un gosse là-dedans. Je pense aussi, tu sais, au personnage de, interprété par René Jean Page. Donc vraiment le beau gosse de Bridgerton qui paraît quand même assez fadasse, qui dans le film est quand même hyper drôle parce qu'il n'a aucun second degré, il capte jamais les vannes. Et je trouve que ça fait que les personnages sont tellement bien caractérisés que ça pardonne en effet, je trouve, des effets spéciaux qui sont parfois approximatif, pas très joli.
Les CGI.
Ouais.
Ouais, des fois, ils sont un peu. Ouais.
Et tu vois, il y a une genre de scène dans l'arène, ce qui n'est pas très joli, je trouve. Mais vraiment, tu passes un très beau moment, donc je le conseille.
Merci beaucoup, merci Thomas. Juju, à ton tour pour son coup de cœur.
Ouais, mais écoute, moi, pour le coup de cœur de ce mois-ci, j'ai été emmené au cinéma, on a été au cinéma à la demande, ou en tout cas sur le conseil de mon beau-père, et qui nous a emmené voir un film qui s'appelle Dancing Pina. Alors, c'est pas vraiment.
C'est un documentaire, ouais.
C'est un documentaire, c'est un film documentaire.
Sur Pina Bausch.
Ouais, sur Pina Bausch, qui est une chorégraphe. Qui est décédée maintenant, mais qui a été très influente et qui avait un style très particulier. Et du coup, il y a un projet qui a été fait. Alors, ça a été juste le documentaire. Je vous donne le nom du gars, mais il a été réalisé par Florian Heinzentiop. Donc, voilà, c'est juste pour savoir que c'est lui qui l'a fait. Et en fait, le reportage suit deux projets qui sont portés par d'anciennes danseuses de cette chorégraphe. Parce qu'elle a un style très particulier qui n'est pas vraiment classique. Et même pour tous les danseurs et du plus haut niveau, ils leur disent toujours que c'est tout un nouveau langage pour eux à apprendre cette façon de danser. Et donc elle avait chorégraphié à l'époque deux œuvres majeures. Et là, on va suivre deux écoles totalement différentes. Une à Dresde en Allemagne, qui est l'Opéra Semper, et une au Sénégal, qui s'appelle l'École des Sables, où on a des danseurs qui viennent de toute l'Afrique avec des influences de tous les styles de danse, mais sans formation classique. Et de l'autre côté, comme dit l'Opéra Semper à Dresde, là, en Allemagne, c'est vraiment une école de danse classique. Et donc, ils vont avoir chacun un projet différent. En Allemagne, c'est, je crois, c'est Iphigénie en tauride, et en Afrique, ce sera le Sacre du Printemps. Mais j'imagine que ça ne vous parle pas du tout, mais bon, bref, ce sont deux spectacles différents. Et en fait, on va suivre donc ces anciens danseurs et danseuses qui ont travaillé sous l'égide de Pina Bausch, qui vont essayer de retransmettre son travail, sa façon d'appréhender la chorégraphie et de la transmettre à cette nouvelle génération, d'un côté de danseurs classiques et de l'autre côté de danseurs d'influence très différente, et de restituer ce spectacle. Et on va suivre donc sur les deux tableaux les personnages et les danseurs qui vont apprendre, qui vont travailler. Et dit comme ça, c'est très bien filmé. On est très proche des danseurs. Moi, je suis absolument pas fan de la danse classique ou de ce genre de choses. Normalement, c'est pas le genre de choses que j'irai voir. Mais j'ai passé vraiment un moment assez incroyable. Et les tableaux sont magnifiques. La fin du reportage est très belle aussi. Voilà, c'était vraiment un moment où je pensais pas que je serais diverti à ce point-là, et ce serait tellement, ça m'a même vraiment donné envie du coup de voir les œuvres au complet, parce que là tu n'en vois évidemment que des bouts, et même en fait c'est généralement c'est une scène, donc tu vas travailler sur une scène qui va durer je pense 2 minutes 30 quand elle va être jouée complètement, et tu vas voir la première appréhension par les artistes et par les profs de la scène, comment on leur décrit, comment on étudie le travail qu'avait fait la chorégraphe avant, comment on va petit à petit répéter chacun des gestes, réapprendre toute cette façon de se mouvoir, et à la fin aussi ce que ça donne lors d'une première sur scène.
Je n'ai pas vu le film, mais c'est marrant parce que j'ai vu Pina en 2011 de Wim Wenders. Pina Bausch est décédée en 2009, et en fait toute la troupe de danseurs on demandait à reprendre un projet qui était en train de se prendre forme de Pina Bausch, et c'est Wim Wenders qui l'a mis en scène et qui a suivi en fait cette troupe là et c'est marrant parce que il y a énormément de points avec ce que tu racontes, et ça a été tourné en 3D, donc c'est une immersion totale. Moi j'ai la chance d'avoir vu ce film là ce documentaire en 3D à l'époque, c'est un des derniers bons films de Wim Wenders, et effectivement c'était passionnant. Moi je n'y connais absolument rien en danse, je m'étais laissé tenter parce qu'il y avait une expérience 3D par j'ai un mon petit côté voilà. Travolta, on va c'est pas ça. Se mentir, allez, j'ai un petit ça. Déhanché ok, ouais. Et je le partage dire. Pas à tout le monde, mais et j'ai été subjugué parce que j'ai vu, donc j'ai pas vu le film dont tu nous conseilles, qui me donne vraiment bien bien envie de le voir, parce que déjà à l'époque, donc je répète, moi je suis pas du tout féru de danse, ni classique ni contemporaine, je n'y comprends pas grand chose, ça me parle pas, Mais quand c'est bien mis en scène et quand c'est montré surtout avec passion, c'est surtout ça qui est toujours intéressant. C'est quand tu as des gens qui te présentent ce qu'ils font avec passion, c'est formidable. Donc moi, ça me tente bien de le voir.
Ok, merci beaucoup, Juju.
Ouais, et puis bon, ça dure quoi, 1 heure à 1h52, comme dit. C'est, je sais pas si ce sera, c'est dans les petits cinoches, hein. Ce sera ou alors ouais.
Ouais, bah, oui.
Mais c'était ouais voilà, ça passe bien.
Ok, merci à vous les garçons.
Ouais, j'ai et un toi. Coup de cœur, moi.
Ah pardon, mais on t'entend tellement que j'ai l'impression que tu l'as déjà dit.
Ok, bah alors tu sais quoi, je vais aller. Putain, quel enfoiré. Je vais aller super vite. Pour c'est un bouquin, c'est un essai, c'est le premier essai dédié au cinéma.
Merci Mathieu. Alors à la semaine prochaine, les petits loulous. Non, vas-y, on y va. Vas-y, je t'écoute.
Écrit par Quentin Tarantino, qui s'appelle Cinéma Spéculation, qui est sorti aux éditions Flammarion, si je dis pas de bêtises, au mois de mars dernier. Alors très honnêtement, c'est un peu ardu à lire parce que c'est le Tarantino qu'on connaît, donc il y a énormément de références, beaucoup de name dropping. À un moment donné, il le dit lui-même, il dit voilà, il y a forcément des noms que vous n'allez pas connaître. Ça vous donnera l'occasion aussi de chercher aussi par vous-même. Moi, alors sans prétention, il y a quand même beaucoup de choses que je connaissais ou au moins je savais de qui il parlait. Il y a des chapitres entiers qui sont consacrés à Don Siegel, à Paul Schrader, à Sam Peckinpah, à John Flynn. C'est vraiment passionnant parce qu'il parle du cinéma qu'il aime. Donc là, on est vraiment dans le cinéma des années 70. Et en parlant de ce cinéma-là, il parle aussi de lui. Parce qu'il y a beaucoup de moments où il parle de comment il a découvert ces films-là quand il était enfant avec sa maman, ou adolescent avec ses beaux-pères, tu vois, qu'il a pu avoir un certain temps. Et donc, tu en apprends aussi beaucoup sur lui. Mais c'est surtout, comme toujours avec Tarantino, c'est un très bon passeur. Je comprends, parce que j'ai lu quelques papiers qui n'étaient pas forcément très élogieux, parce qu'effectivement, il y a un côté très abscon et très auto-centré, parce que si tu n'as pas certaines références, c'est des fois un peu imbitable, et il écrit un peu comme il parle. Donc, voilà, on aime surtout le Tarantino dialoguiste. C'est pas une fine plume, hein, on va pas se mentir, c'est pas un grand auteur, un grand romancier, ni quelqu'un qui a du style quand même dans ses essais, mais c'est quand même assez pertinent quand c'est un type comme lui qui est bourré de références de lire un essai sur le cinéma. Donc je le conseille, Cinéma Spéculation de Quentin Tarantino aux éditions Flammarion.
Merci Mathieu.
Merci.
Merci les garçons. Merci Loris, merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, écouter cet épisode ainsi que les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Apple Addict, Podcast Addict, etc. etc. Il y en a partout. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode consacré au film
qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis.
Exactement. Merci à vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao.
Ciao.